Bonsoir à tous. Bonsoir Gaël Giraud. Si nous sommes ici réunis, c'est pour évoquer votre dernier ouvrage, Gaël Giraud, Illusion financière plus exactement, paru aux éditions de l'Atelier. Et je suis très honoré de pouvoir vous interroger pour nous aider à mieux comprendre la crise dans laquelle nous sommes plongés et surtout à mieux discerner les solutions pour en sortir. Pour en sortir par le haut même, puisque c'est un peu votre proposition. Au préalable, permettez-moi de parler un peu de vous pour mieux vous présenter à ceux qui vous connaissent peut-être encore mal. En vous lisant, j'ai été tout de suite frappé du nombre de citations bibliques qui parsèment votre ouvrage. Vous y consacrez même une annexe entière. Et je me suis immédiatement fait cette réflexion, moi qui lis quelques ouvrages d'économistes, un économiste qui non seulement cite la Bible, mais qui prétend aussi s'en inspirer. C'est une sorte de phénomène, si vous me permettez l'expression, qui mérite qu'on s'y intéresse un peu de près. Alors, un mot donc sur votre CV. Vous êtes docteur en mathématiques appliquées, normalien, diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, et j'en oublie certainement. Donc, vous auriez pu largement, Gaël Giraud, faire fructifier ses talents en les plaçant au service d'une banque privée, ou peut-être même en chaussant des pantoufles dorées dans une haute administration. Mais voilà, en 2004, le consultant en investissement que vous avez été un temps décide de quitter la sphère sans doute trop étouffante de la finance pour entrer dans la vie religieuse chez les jésuites. Et depuis, votre travail de chercheur et d'enseignant cherche avant tout à redonner une dimension morale à l'économie et je crois en puisant aux sources de la spiritualité chrétienne. Publié en 2009, votre ouvrage « 20 propositions pour réformer le capitalisme », co-dirigé avec Cécile Renoir, religieuse de l'Assomption et spécialiste de l'éthique en entreprise, fait l'effet d'un pavé dans la mare d'impuissance dans laquelle sont engluées les politiques face à la crise. Les thèses que vous y développez font grincer des dents à plus d'un dans les milieux d'argent et de pouvoir, mais le grand public, lui, en redemande. Le livre, que je n'ai pas d'ailleurs, mais qui est disponible en poche, en est à sa troisième édition, je crois. Et le succès se double d'une reconnaissance par vos pairs, puisque vous êtes récompensé cette année-là, donc 2009, du prix du meilleur jeune économiste, décerné par le quotidien Le Monde et le Cercle des économistes. En 2012, au début de l'année, vous récidivez avec le facteur 12, toujours avec votre complice Cécile Renoir, avec qui vous abordez cette fois la délicate question, jamais réglée, de l'écart maximal des salaires que vous proposez de régler sur celui qui existe déjà dans la fonction publique, c'est-à-dire une échelle de 1 à 12. Dans « Illusion financière », sous-titré « Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire », votre dernier livre, vous reprenez vos thèmes de prédilection, dénonçant les responsabilités d'un monde de la finance, engagé dans une course au profit que vous jugez délétère, et fustigeant l'inconséquence d'une classe dirigeante qui impose au peuple une politique d'austérité qui ne conduit, toujours selon vous, qu'à creuser un peu plus les difficultés. Votre solution. S'il fallait la résumer, je dirais qu'il s'agit de remettre l'économie au service de l'intérêt général et de l'homme. Et comme première urgence, vous suggérez la mise en place d'un programme de transition écologique à l'échelle européenne qui est pour vous, le seul moyen de relever le défi énergétique et climatique, tout en assurant une prospérité durable et raisonnable. Je vais le confesser devant vous, je n'ai pas toujours tout compris à l'ensemble de l'ouvrage. Mais je me suis rattrapé en me disant, c'est peut-être ça qu'il fallait démontrer. J'ai eu l'impression justement que ce que vous voulez dire, c'est que le fonctionnement de ces marchés financiers, depuis quelques années, sont devenus tellement complexes, tellement opaques, que le simple citoyen comme moi, peut-être comme vous dans la salle, a quand même du mal à comprendre quelque chose et surtout à réagir. D'où l'utilité d'un penseur comme vous, Gaël Giraud, sorte de prophète inspiré d'une sortie de crise qui passe par le renoncement à l'illusion financière que vous qualifiez de nouveau veau d'or des temps modernes. Voilà, je ne sais pas si j'ai été complet, certainement pas dans cette présentation, mais peut-être à cette esquisse, je voudrais apporter une touche supplémentaire ou oui, une correction.
Juste pour dire que je n'ai pas été, j'ai pas eu le prix en 2009, j'ai été nominé, ce qui est juste la marche en dessous. Voilà, j'ai pas eu le prix, j'ai été nominé. Mais à part ça, ce que vous avez dit est juste.
Alors, merci beaucoup.
Enfin, je crois.
Bon. Bien, si vous voulez, donc, je vais Moi qui ai lu ce livre, peut-être dans la salle certains l'ont déjà, se le sont procuré, mais n'ont pas eu encore le temps de le lire. Donc je vais me faire l'interprète du grand public pour vous poser un certain nombre de questions qui essaient de comprendre un peu votre pensée et nous expliquer les solutions que vous développez. Dès l'introduction de cet ouvrage, vous affirmez ceci. Une des origines de la crise européenne actuelle se trouve dans le krach financier de 2007. Alors, expliquez-nous un peu, Gaël Giraud, comment l'éclatement d'une bulle financière qui a commencé aux États-Unis, avant de, j'allais dire, d'infecter l'ensemble du système bancaire mondial à cette époque, peut être lié à la crise des dettes publiques que nous affrontons aujourd'hui. Beaucoup d'économistes le contestent en disant les deux sont liés, mais pas aussi fortement que vous le soulignez.
Alors, donc je ne dis pas que c'est la seule cause. Il y en a bien d'autres. C'est souvent le cas, vous savez, quand on fait un accident de voiture, par exemple. Alors, M. Martin fait un accident de voiture, mais parce qu'il était tard, la chaussée était glissante, il avait bu un coup et il n'a pas vu l'arbre. Vous voyez, donc il y a plusieurs causes. Mais à la fin, il y a un accident. Alors là, c'est une des causes qui a contribué, disons, à la situation dans laquelle nous sommes au sein de la zone euro aujourd'hui. Alors, je vais prendre deux exemples qui vont illustrer ceci, je crois, de manière assez forte. Ce sont l'Espagne et l'Irlande, qui sont un peu dans l'œil du cyclone aujourd'hui, comme vous le savez. Alors, l'Espagne, en 2007, la dette publique espagnole, c'est 40% du PIB. 40% du PIB. Beaucoup, beaucoup moins que ce que nous avons, nous, en France, à la même époque. Aujourd'hui, c'est 80%. Donc, au passage, la dette publique espagnole est inférieure à la nôtre, en France, relativement au PIB espagnol ou au PIB français. Et elle a doublé, disons, en 5 ans. Alors, si elle a doublé en 5 ans, ça n'est pas du tout parce que l'État espagnol aurait recruté des millions de fonctionnaires à Madrid pour ne pas travailler, mais c'est parce que depuis 2007, le système bancaire espagnol est en quasi-faillite et que tous les mois, l'État espagnol est obligé de recapitaliser un certain nombre de ses banques, donc de remettre de l'argent dans le bilan des banques pour sauver ses banques. Et c'est ça qui ruine l'État espagnol aujourd'hui. Or, si les banques espagnoles sont en faillite aujourd'hui ou en quasi-faillite, ça, par contre, c'est très clair, c'est essentiellement dû à la crise des subprimes de 2007-2008. Autre exemple, l'Irlande. L'Irlande, en 2007, est encore plus vertueuse que l'Espagne, puisque la dette publique irlandaise, en 2007, c'est 25% du PIB irlandais. Un quart. Donc, très probablement, l'Irlande, à ce moment-là, est le premier élève de la classe européenne en termes d'endettement public. À l'été 2010, la totalité des banques irlandaises passe avec succès les stress tests, donc les tests de résistance aux risques extrêmes imposés par la Banque Centrale Européenne, la BCE. Donc tout le monde se dit, on pousse un ouf de soulagement, le secteur bancaire irlandais est sûr, puisqu'il vient de passer les tests de résistance à ce qu'il y a de plus extrême, nous pouvons tous dormir tranquilles. Et voilà que trois mois plus tard, pas moins de trois mois plus tard, la totalité du secteur bancaire irlandais fait faillite. Donc à l'automne 2010, le gouvernement irlandais décide à ce moment-là de nationaliser toutes ses banques et de prendre à son compte la dette de ses banques. Et c'est ce qui fait qu'en un an, la dette publique irlandaise passe de 25% à 100% du PIB irlandais. Donc de nouveau, si l'Irlande aujourd'hui est dans une situation extrêmement délicate, ça n'est absolument pas à cause, de l'irresponsabilité de quelques fonctionnaires qui auraient trop dépensé. S'il y a une irresponsabilité quelque part, elle est certainement à chercher du côté du secteur bancaire irlandais et du côté des autorités de contrôle du secteur bancaire irlandais, des autorités publiques irlandaises, qui ont laissé les banques irlandaises accumuler des dettes extraordinaires. Comment et pourquoi ? Pour la même raison qu'en Espagne, c'est que les banques irlandaises ont joué de manière massive la bulle immobilière, donc ont accordé des crédits extraordinaires à des projets immobiliers qui n'avaient aucun fondement. On savait qu'on peut loger au moins un quart de la population irlandaise aujourd'hui dans des bureaux qui sont vides à Dublin. Et vous avez à peu près le même phénomène dans le sud de l'Espagne. Si vous êtes promené récemment en Espagne, vous avez certainement vu des villages fantômes qui sont arrêtés à mi-hauteur. Donc vous voyez encore le béton armé qui est prêt à grandir. Ces villages se sont arrêtés en 2007 et en fait personne n'y habite. Donc évidemment les agences immobilières sont ruinées, tout le monde est ruiné parce que les banques de nouveau ont accordé des crédits extraordinaires à des projets qui n'avaient ni queue ni tête. Comment les banques ont-elles réussi à accorder ces crédits ? Pour une raison simple, c'est que les crédits qu'accordaient les banques, qu'elles accordent encore aujourd'hui, peuvent être titrisés. Titrisés, ça veut dire que la créance que détient une banque sur quelqu'un qui lui a demandé un emprunt, cette créance peut être transformée en un actif financier, un titre, qui peut être échangé sur un marché financier. À partir du moment où il est vendu sur le marché financier, il sort du bilan de la banque et la banque a simplement gagné l'argent de la transaction et ne porte plus le risque du crédit qu'elle a accordé. Donc, je viens voir une banque, elle sait très bien que je suis insolvable, que j'ai un projet qui est complètement fou, mais ça n'a plus aucune importance puisqu'elle peut, par beau temps, revendre demain matin le crédit qu'elle m'aura accordé. Alors après, si je fais faillite, ça n'est plus son problème, ça devient le problème de l'acheteur qui a acheté, qui a fait l'erreur d'acheter cette dette titrisée à la banque. Oui, c'est le même phénomène qui fait que la crise des subprimes aux États-Unis s'est transférée à l'ensemble de l'Europe et du Japon, puisque les crédits accordés par des agences de crédit aux ménages pauvres américains surendettés ont immédiatement été titrisés eux aussi, entre 2001 et 2007 en gros, et ont été transférés à la totalité des banques de la planète sous la forme d'actifs financiers. Ce qui a évidemment facilité le caractère peu regardant des banques américaines. Donc elles ont prêté à des ménages pauvres américains qui voulaient s'endetter pour acheter leur maison. Et en fait, elle n'avait aucun intérêt à vérifier que le ménage en question était capable de rembourser sa dette, puisque de toute façon, le lendemain même, elle pouvait revendre cette créance sur un marché financier. Oui.
Le mécanisme que vous décrivez, donc, Gaël, c'est des banques qui se fragilisent elles-mêmes en se lançant dans une spéculation un peu folle et un État qui est obligé de dépenser des milliards, puisque c'est des chiffres qui se comptent en milliards, c'est-à-dire pour rassurer un système bancaire qui a lui-même failli. Alors, vous avez pris deux exemples très frappants. Celui de l'Espagne et celui de l'Irlande. Alors, permettez-moi une petite question critique. On choisit souvent les exemples qui nous arrangent. Si on prend l'exemple de la France, beaucoup font remarquer que la dette publique française ne date pas de 2007-2008, que c'est 30 ans d'une dépense publique, droite ou gauche mêlée, assez folle. Et quand vous parlez du refinancement, pour le dire rapidement, des banques, souvenez-vous, notre gouvernement d'alors nous avait expliqué que ça n'avait pas coûté un euro aux Français, qu'au contraire même, ça avait rapporté un peu d'argent. Alors est-ce que c'est un contre-exemple qui vient semer un peu le désordre dans votre théorie, ou bien au contraire c'est une mauvaise vision des choses?
Alors ce n'est pas un contre-exemple. Alors d'abord, premièrement, nous ne sommes pas en France dans la situation de l'Espagne, puisque nous empruntons aujourd'hui, vous le savez peut-être, sur les marchés financiers à des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que les prêteurs qui prêtent aujourd'hui à la France acceptent de payer pour avoir le droit de nous prêter. Donc j'expliquerai, si vous voulez, tout à l'heure, dans 5 minutes, comment et pourquoi on arrive à ce paradoxe. Mais au moins, ça signale que, évidemment, on ne peut pas prendre la France comme contre-exemple aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas du tout la même situation que l'Espagne. Il reste que, alors je reviens un tout petit peu sur ce que vous avez dit, qui est effectivement ce qu'on entend partout aujourd'hui dans les médias, et avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord. Le premier point, c'est, disons, les dépenses publiques françaises se seraient envolées depuis des années dans tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Je ne crois pas du tout que ce soit vrai. Si vous regardez le ratio dépenses publiques sur PIB, hein, parce qu'on compare, en général, on regarde le ratio dette sur PIB. Bon. Alors, si je veux savoir si l'État dépense trop, je regarde le ratio dépenses publiques sur PIB. Bon. Et je constate que le ratio dépenses publiques sur PIB est constant, voire décroissant, depuis 20 ans. Donc, c'est juste faux de prétendre que l'État français a jeté de l'argent par la fenêtre. En réalité, les dépenses ont cru à la même vitesse que la taille du gâteau France. Ce qui est vrai, c'est que les déficits ont augmenté, mais ça, c'est pas du tout dû à des excès de dépenses, c'est dû à un manque de recettes. Quand vous avez un déficit, c'est soit que les dépenses sont trop importantes, soit que les recettes sont trop faibles. Bon, ça, c'est la bonne gestion budgétaire du ménage. Bon. Si les dépenses ne sont pas trop importantes, et je vois mal au nom de quoi on pourrait prétendre qu'elles le sont trop en France, vu qu'elles ont augmenté à la même vitesse, voire un peu moins vite que le PIB, ça veut dire que les recettes sont trop faibles. Alors là, du côté des recettes, effectivement, comme vous le savez, on a eu l'accumulation de niches fiscales et de cadeaux fiscaux depuis des années, qui est quand même très largement responsable, cette fois-ci, de l'accumulation du déficit public français. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, de fait, la Fédération française des banques a beaucoup communiqué pour dire « Nous, les banques en France, nous n'avons rien coûté aux contribuables français ». Alors, je mets deux bémols à cette affirmation. C'est vrai sur le papier. Trois bémols, si vous voulez. Le premier, c'est la Société Générale, de fait, n'a rien coûté aux contribuables français parce qu'elle a été recapitalisée, en fait, par le contribuable américain. J'explique juste de quoi il s'agit. Au moment, donc vous vous souvenez que le 15 septembre 2008, Lehman Brothers fait faillite. Lehman Brothers n'est pas sauvé. L'administration américaine, à l'époque, décide de ne pas sauver Lehman. Mais une semaine après, l'assureur américain AIG se trouve lui-même au bord de la faillite. Et cette fois-ci, l'État américain décide d'intervenir. pour quelle raison, on pourrait entrer dans le débat si vous voulez, ce n'est pas l'objet ici. Or, il se trouve que AIG doit au moins 12 milliards à Société Générale. Si l'État américain n'était pas intervenu pour renflouer AIG, la Société Générale aurait perdu 12 milliards. En fait, la Société Générale ne les a pas perdus, heureusement, mais parce que c'est le contribuable américain qui s'est saigné pour renflouer AIG, laquelle a pu payer sa dette vis-à-vis de la Société Générale. Si, à la fin du mois de septembre, AIG avait fait faillite, la SocGen aurait perdu 12-13 milliards. Et à ce moment-là, c'est bien nous qui les aurions payés pour la Société Générale. Puis, deuxième bémol, Dexia, comme vous le savez, est en cours de recapitalisation. À l'heure qu'il est, je ne sais toujours pas combien Dexia va coûter aux contribuables français. Mais ce que je sais, c'est que c'est au-dessus de la dizaine de milliards d'euros. Donc, ça ne me semble pas tout à fait... je suis d'accord, sur le papier, c'est vrai, pour l'instant, jusqu'à plus ample informé, les banques françaises n'ont pas coûté un centime aux contribuables français. En réalité, si on est d'un tout petit peu meilleure foi, si je puis dire, nous ne sommes passés pas très loin d'une catastrophe pour la Société Générale, et Dexia va nous coûter très cher. Alors, on pourrait rentrer encore davantage dans le détail pour parler de Natixis. Bon. Troisième bémol, une des raisons fondamentales pour lesquelles les banques en Europe, mais aussi aux États-Unis, se sont relevées aussi vite de la crise des subprimes en 2008, c'est qu'il y a eu une opération comptable à la fin de l'année 2008, qui est passée évidemment complètement inaperçue du grand public, mais qui mérite, à mon avis, d'être rappelée ici. Les normes comptables internationales auxquelles les banques sont soumises sont édictées par un organisme privé qui est situé à Londres, qui s'appelle l'IASB, et auquel la Commission européenne a délégué la tâche éminemment importante d'édicter ces normes. À la fin de l'année 2008, la plupart des banques européennes ont fait un pèlerinage à Londres. Alors, ce n'était pas pour admirer la Tamise, c'était pour aller discuter avec l'IASB. Pourquoi ? Parce qu'elles ont supplié l'IASB de les autoriser, à titre exceptionnel, dérogatoire, temporaire, à ne plus valoriser leurs actifs subprime, les actifs toxiques dérivés de crédit sur le crédit américain essentiellement, à ne plus les valoriser à leur valeur de marché comme elles sont supposées le faire si elles obéissent aux normes comptables que nous avons édictées. Pourquoi ? Parce que la valeur de marché, le prix de marché de ces actifs était devenu nul. Et étant devenu nul, ces actifs-là creusaient des trous noirs dans les bilans des banques. Donc obliger les banques à se recapitaliser, mais les banques elles-mêmes se recapitalisant, ça détériorait une partie du bilan, bon, etc. Et l'IASB, et sans doute pour les bonnes raisons, je ne suis pas en train de critiquer l'IASB, en tout cas, toujours est-il que l'IASB, au 31 décembre 2008, a accordé ce régime d'exception, uniquement aux banques. Donc au passage, s'il y a des industriels dans la salle, vous savez que les industriels, eux, les gros industriels français ont aussi un portefeuille financier, évidemment, n'ont pas eu droit à la même générosité. Donc eux, ceux qui avaient des actifs subprime dans leur portefeuille, ont été obligés de continuer à remplir les trous noirs que ces actifs subprime creusaient dans leur bilan. Pas les banques. À l'époque, en fait, les autorités bancaires pensaient qu'on construirait en France une grande banque de défaisance, une bad bank, qui rachèterait à un prix modique les actifs toxiques des banques privées et leur permettrait de s'en débarrasser. Nous n'avons pas construit cette bad bank, sauf à supposer que la BCE soit en train de le devenir, ce qui n'est pas impossible. Toujours est-il qu'officiellement, nous n'avons pas de bad bank en Europe. Donc les banques européennes, y compris françaises, sont toujours collées avec leurs actifs toxiques, qui sont toujours dans leur bilan. Simplement, ces actifs toxiques ne creusent plus de trous noirs dans leur bilan parce qu'on ne les valorise plus à leur valeur de marché. Alors vous me direz, mais à quelle valeur les valorise-t-on dans leur bilan ? On leur donne une valeur qui est attribuée par un modèle théorique, un modèle de mathématiques. Alors qui est exactement le type de modèle sur lequel j'ai travaillé avant d'entrer dans la compagnie, avant de devenir jésuite. Et donc je peux vous dire d'expérience que si le produit financier est suffisamment compliqué, et si vous me laissez un peu de temps, ou à l'époque si vous me laissiez un peu de temps, vous me disiez je veux que ça vaille tant, eh bien, je vous faisais le modèle mathématique pour que ça ait exactement ce prix-là. Évidemment, il y a 50 pages de mathématiques en annexe du bilan de la banque et aucun auditeur comptable n'est capable d'aller lire les 50 pages. Il n'a pas le temps, il n'a pas la compétence, etc. Et ceci dit, ce n'est pas du tout une critique vis-à-vis des auditeurs comptables qui font très bien leur métier, ce n'est pas le sujet, évidemment. Donc j'ai dit ça en 2009 à une table ronde à Dauphine où il n'y avait que des experts comptables qui étaient évidemment très très embarrassés. Donc j'ai dit non, mais vraiment, le père Giraud sous-estime l'expertise de nos auditeurs. J'ai répondu, ben oui, mais vos auditeurs ne sont pas des mathématiciens. Donc devant 15X qui sont payés des ponts d'or pour faire ça toute la journée, vous ne pouvez absolument pas rivaliser, c'est sûr. Donc les prix qui sont donnés à ces actifs toxiques dans les bilans des banques depuis 2008, fin 2008, sont, pour dire les choses très simplement, évidemment de manière un peu caricaturale, sont des prix fantaisistes. Donc ces actifs toxiques sont passés de zéro à quelque chose, un prix fantaisiste, qui a permis aux banques de nouveau d'afficher des profits mirobolants au deuxième semestre 2009, alors que rien n'avait changé dans leur bilan.
Ça, Gaël Giraud, c'est une sorte de maquillage après la crise. Moi, j'aimerais vous poser une question tout à l'heure sur avant la crise. Comment est-ce que expliquer que personne n'ait rien vu ou est fin de ne rien voir, mais vous nous avez promis tout de même de nous expliquer rapidement comment on obtenait un prêt à taux négatif. Alors, comme ça fait rêver, si vous pouviez nous donner la recette.
Alors, il y a quatre émetteurs de dette en ce moment qui ont réussi ces derniers mois à émettre la dette à un taux d'intérêt négatif. C'est l'Allemagne, la Belgique, la France et le Fonds européen de stabilité financière, le FESF, dont vous avez entendu parler, qui est un fonds européen chargé de collecter de l'argent sur les marchés financiers pour le reprêter à un taux d'intérêt supérieur aux États en difficulté. Alors la raison, il y a plusieurs raisons, ça c'est comme les accidents de voiture de tout à l'heure, il y a plusieurs raisons, et la plus intéressante est la dernière que je vous garde pour la fin. La première raison, c'est tout simplement une raison de devise, c'est-à-dire que les grands investisseurs internationaux ont des grands portefeuilles financiers dans lesquels il y a des sommes considérables, et ils ont besoin de diversifier les devises dans lesquelles sont libellés les actifs de leur portefeuille. Vous avez en gros trois catégories d'actifs, des actifs en dollars, des actifs en euros, et puis le reste. Donc dans le reste, il y a tout ce que vous voulez, du yen, du franc suisse, etc. Du florin. Bon. Le dollar ne vaut plus grand-chose, en fait, parce que si on analyse les fondamentaux réels des États-Unis, le dollar, en réalité, devrait être beaucoup plus bas qu'il n'est aujourd'hui. Et ça, les investisseurs le savent très bien. Par exemple, la dette américaine est très supérieure à celle de la zone euro. Les Américains sont encore moins en mesure que nous de payer leur dette publique. Donc, les investisseurs veulent absolument avoir de l'euro, pour ne pas être trop dépendant du dollar. En particulier les investisseurs chinois, qui ont compris depuis 2008 qu'ils ne pourraient pas jouer très longtemps au petit jeu auquel ils étaient condamnés jusqu'alors, qui consistait à racheter de la dette publique américaine pour soutenir le dollar. Puisque, à l'époque, les 1000 milliards d'excédents commerciaux de la Chine, en 2008, étaient quasi intégralement libellés en dollars, de sorte que Pékin avait absolument intérêt à ce que le dollar soit maintenu hors de l'eau, pour que la montagne d'excédents commerciaux sur laquelle elle était assise ne fonde pas comme neige au soleil. Depuis 2008, Pékin a bien compris la leçon et s'est lancé dans une grande stratégie de diversification des devises dans lesquelles sont libellés ses excédents commerciaux. C'est pour ça que la Chine veut soutenir l'Europe. Ce n'est pas du tout par philanthropie et par amour de Platon. C'est parce que les Chinois ne veulent plus être dépendants des États-Unis. Donc, ils ont besoin de soutenir l'euro. Et ça vaut pour la totalité des investisseurs du monde qui sont donc prêts à payer pour avoir de la dette publique en euros dans leur portefeuille. Ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif, c'est technique, c'est que la dette publique, par exemple, lorsque j'achète de la dette publique française, je peux utiliser cette dette publique comme gage, comme hypothèque, pour une autre transaction financière. À ce moment-là, par exemple, je m'engage dans une transaction avec Antoine, donc je lui vends un actif risqué, et puis si jamais demain je n'honorais pas ma promesse, je ne remboursais pas ma dette à Antoine, Antoine pourra saisir mon portefeuille de dette publique française. Donc la dette publique européenne, ça peut servir d'hypothèque ou de gage, si vous voulez, à d'autres transactions. Alors évidemment, si j'ai absolument besoin de faire cette transaction aujourd'hui, et si j'ai absolument besoin du coup d'avoir ce qu'on appelle du collatéral, c'est-à-dire des hypothèques, je vais être capable de payer pour pouvoir en avoir. Vous voyez ? Voilà, ça c'est la deuxième raison. La troisième, qui est la plus intéressante, parce qu'elle nous concerne tous. En fait, si j'étais un investisseur rationnel, a priori, je me dirais, plutôt que d'investir dans de la dette publique européenne et de devoir pour ça payer des taux d'intérêt à celui à qui je prête de l'argent, je pourrais me contenter d'avoir du cash, de la liquidité monétaire, comme vous et moi, sur des comptes bancaires en Europe. Ça ne rapporte rien, mais ça ne coûte rien. La dette publique française, aujourd'hui, avec un taux d'intérêt réel négatif, non seulement elle ne rapporte pas, mais elle coûte à celui qui met l'argent au pot. Vous voyez ? Donc je me dis, mais comment se fait-il que les investisseurs ne préfèrent pas au moins, au minimum, avoir du cash? Et puis le cash, comme vous le savez, c'est sûr, ça ne risque rien. Alors c'est justement ça qui n'est plus vrai. Le fait que les investisseurs aujourd'hui acceptent de prêter à taux négatif à la France, à la Belgique, à l'Allemagne et au FESF, signifie qu'ils pensent qu'une dette publique française, par exemple, ou allemande, c'est plus sûr que des euros sur un compte bancaire. Pourquoi? Pour une raison institutionnelle très simple, c'est que si jamais la banque qui héberge les euros ou qui héberge la dette publique que j'ai achetée, fait faillite, alors les euros ne valent plus rien, mais la dette publique vaut toujours quelque chose. Parce que cette dette publique, c'est un contrat que j'ai passé avec l'État qui a émis la dette. Et donc, même si, admettons que donc, j'ai souscrit des obligations françaises, bon, elles sont dans mon compte auprès d'une banque, cette banque fait faillite. Alors, moi, je suis toujours propriétaire de ces titres et je peux toujours me retourner vers l'État français en disant, voilà, maintenant, j'aimerais que vous me payiez. Vous voyez ? Donc, ça signifie, ça vous dit quelque chose de l'état de défiance incroyable qui habite aujourd'hui les investisseurs internationaux sur quoi donc ? Non pas l'état des finances publiques européennes, puisqu'ils achètent de la dette publique. Ils sont même prêts à payer pour ça. Sur l'état du secteur bancaire.
Mmh. Oui. Est-ce que c'est le reflet d'une solidité ? Enfin, quand on prête pas tous les pays à taux négatif. On prête à certains pays, l'Allemagne, la France. Bon, est-ce que ça reflète une certaine confiance des marchés dans ces pays et peut-être aussi une solidité de ces pays sur le long terme ?
Alors, ça reflète l'idée que pour les investisseurs, aujourd'hui, la France ne va pas faire défaut sur sa dette. La France ne va pas faire faillite. Ce qui est une évidence pour tout le monde, mais ce qui n'est pas du tout une évidence pour la Grèce. La Grèce va faire défaut, très certainement, une deuxième fois, dans les 24 mois à venir, quand je suis incapable de vous le dire, mais absolument tout le monde sait que la Grèce fera défaut. Donc c'est bien pour ça que ces mêmes investisseurs refusent absolument de prêter à la Grèce aujourd'hui. Donc, voilà.
Oui, très bien. Revenons un peu au mécanisme de la crise que vous décrivez et que vous comparez à une sorte de gigantesque pyramide de Ponzi. Alors, la pyramide de Ponzi, on en a tous entendu parler au moment de l'affaire Madoff. Je rappelle le système, qui est un système crapuleux, on va dire.
Qui est illégal.
Consiste à rémunérer des clients avec l'argent des autres en promettant à chacun des gains substantiels. Et à un moment donné, évidemment, cette pyramide, ce château de cartes s'effondre et... voilà. Alors, quand c'est un escroc, on le met en prison. Quand c'est des banques, ça se passe différemment, expliquez-vous. Mais comment est-ce que vous expliquez que personne ne soit rendu compte de rien, n'ait tiré à un moment donné une sonnette d'alarme ?
Alors, c'est pas tout à fait vrai que personne n'ait rien dit. Alors, je peux simplement donner ma propre expérience personnelle. Avant de devenir jésuite, donc j'ai travaillé comme consultant scientifique pour des banques et j'ai alerté la banque pour laquelle je travaillais sur la dangerosité des produits dérivés de crédit. Mais j'étais pas du tout le seul, ça n'avait rien d'héroïque. C'est-à-dire tous les gens qui travaillaient techniquement sur ces produits, qui étaient un minimum, conscients de ce qu'ils faisaient, savaient très bien que ces produits étaient extrêmement dangereux et que les banques étaient incapables de mesurer la dangerosité de ces produits. Et la réponse qui m'a été faite, à mon avis, est exemplaire, c'est « Mon garçon, tu vois bien combien on gagne, pourquoi tu veux nous empêcher de faire la fête ?» Vous voyez ? Ceci pour dire qu'il y a des gens qui se sont bien rendus compte que ça allait très mal. C'est-à-dire qu'on avait une bulle énorme qui était en train de gonfler de 2001 à 2007, qui était construite sur des dettes que la majorité des ménages pauvres américains étaient incapables de rembourser. Mais ça rapportait tellement d'argent sur le moment que ça inhibe complètement l'esprit critique d'un certain nombre de gens, y compris dans le top management des meilleures banques du monde.
Peut-être y compris dans notre société, puisqu'on a eu précisément l'illusion financière ou l'illusion d'une croissance toujours possible.
Tout à fait. Et alors le meilleur symptôme du fait que nous ne sommes pas guéris de cette illusion, c'est ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Parce que vous avez vu que depuis 3 semaines, les marchés financiers ont retrouvé le sourire. Alors peut-être vous avez vu dans ce cas-là les éditoriaux dans la presse nationale qui disaient « ça y est, c'est extraordinaire, la bourse a retrouvé le niveau qui était le sien avant 2007 ». Avant le début de la crise des subprimes. Sous-entendu, nous avons enfin réussi à fermer la parenthèse, on va pouvoir recommencer avec des jours meilleurs. Alors évidemment, et c'était je crois que c'était du premier degré, me semble-t-il. En tout cas, les journalistes avec qui j'en ai parlé, y croyaient, ils croient toujours. Mon point, c'est que ce n'est pas du tout le signe que nous avons résolu quoi que ce soit, ça veut simplement dire qu'une nouvelle bulle est en train de gonfler, c'est tout. La hausse des cours des marchés financiers n'a jamais été le signe d'une prospérité à venir. En aucune façon. Donc, alors pourquoi est-ce qu'une nouvelle bulle est en train de gonfler aujourd'hui ? Mais parce que, comme vous l'avez certainement repéré, les banques centrales n'ont pas trouvé d'autres moyens, parce qu'elles n'en ont pas d'autres en fait, d'éteindre l'incendie de la crise des subprimes qu'en injectant des milliards dans le système bancaire. Dernièrement encore, de décembre dernier à février dernier, Mario Draghi, donc le président de la BCE, a prêté 1 000 milliards d'euros aux banques européennes. Donc, c'est des sommes considérables. 1 000 milliards, c'est la moitié du PIB français, en gros. Ces liquidités-là sont restées captées pendant un bon moment dans les bilans des banques, le temps qu'elles arrivent à combler les trous noirs creusés par leurs fameux actifs subprimes, puis, pour une partie d'entre elles, par les dettes publiques européennes. Maintenant que certaines de ces banques pensent pouvoir aller un peu mieux, elles réinjectent ces liquidités, mais où elles ne réinjectent pas du tout dans l'économie réelle, parce que l'économie réelle ne les intéresse pas, ce n'est pas du tout assez rentable, sur les marchés financiers. Et nous sommes repartis pour une nouvelle bulle, c'est tout ce que ça veut dire.
Vous expliquez quand même que ce système qui est en faillite complète était au départ au service d'une idéologie dont on pourrait se dire qu'elle est finalement assez intéressante dans son idéal, puisque vous dites c'est une. On a voulu au départ aux États-Unis, surtout la droite républicaine, mais ça a été peu contesté par les démocrates, bâtir une sorte de nouveau rêve américain, une société des propriétaires où on voulait faire accéder toutes les familles, y compris celles qui avaient le moins de capacité de remboursement, à acheter sa maison. Et vous êtes, j'ai trouvé, extrêmement sévère à l'égard de cette idéologie. En même temps, être propriétaire de sa maison, j'allais dire, là aussi, c'est le désir de beaucoup de gens et peut-être aussi une sécurité pour sa famille, pour soi-même, dans un monde qui est mouvant et insécure.
Oui, alors, donc, je ne pense pas avoir écrit nulle part dans le bouquin, c'est une mauvaise idée d'être propriétaire. Le point, c'est de comprendre que faire, disons, de l'accession de tous à la propriété une espèce d'idéal pour notre société auquel il faudrait tout sacrifier, c'est là que je me pose des questions. D'une certaine manière, la thèse que je défends dans le bouquin, c'est que tout se passe comme si la société américaine s'était convaincue que, disons, l'idéal messianique pour elle, c'est le propriétaire. Voyez. Dans les sociétés marxistes, c'est le prolétaire, et l'Amérique de Bush, c'est le propriétaire. En fait, par exemple, on peut prendre une anecdote, c'est l'un des gouverneurs de la Fed, de la Banque centrale américaine, qui était tout à fait conscient de la dangerosité de ce qui était en train d'arriver, reconnaît lui-même, après coup, après 2007, qu'il a fermé les yeux parce qu'il s'est dit, mais au fond, si c'est le prix à payer pour que tout le monde devienne propriétaire, peut-être, pourquoi pas. Vous voyez, ça, anéantit beaucoup d'esprit critique de la part de ceux qui voyaient ce qui se passait. Alors, pourquoi finalement, me semble-t-il, c'est extrêmement dangereux? Mais parce que, tout simplement, ça ne marche pas du tout. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de propriétaires de leur domicile aux États-Unis aujourd'hui qu'en 2007. Puisqu'il y a 3 millions de ménages américains qui ont été expropriés de leur maison. Une bonne partie d'entre eux a dû habiter dans sa voiture, le temps de trouver autre chose. Et j'ai un camarade qui travaille sur les marchés financiers qui, au début de l'année 2008, est venu vendre en Europe des produits dérivés sur le crédit accordé à un ménage exproprié dormant dans sa voiture, dont le gage, l'hypothèque, était la voiture. Et son argument de vente, c'était « Mais regardez, il a déjà perdu sa maison, il ne lui reste que sa voiture, alors là, c'est sûr qu'il ne la perdra jamais. » La voiture, c'est sûr, comme le lever du soleil. Vous pouvez parier dessus autant que vous voulez. Oui. Ce qui signale que, voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite à ce jeu qui consiste à endetter des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de résister, y compris jusqu'à leur faire prendre des risques mortels. Hein. Une famille qui dort dans la voiture, vous faites un prêt gagé sur la voiture, c'est quand même lui faire prendre un risque complètement irresponsable. Voilà. Alors, donc, simplement pour souligner, hein, c'est un idéal messianique dont on pourrait discuter, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit le bon, mais voilà. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'a pas du tout marché. C'est exactement le contraire qui s'est passé.
Si on revient, Gaël Giraud, à la crise actuelle des dettes souveraines européennes, pour le grand public, tout commence avec la Grèce. Et une question se pose depuis des mois dans nos journaux, dans le débat public. Est-ce qu'il est légitime, normal, moral, vous mettrez le mot qui convient le mieux, est-ce qu'il est normal que les Européens règlent toute ou partie d'une dette d'un pays qui a maquillé ses comptes, dont une grande partie des citoyens refusent de se soumettre à l'impôt, et vous le soulignez aussi dans votre livre, qui continue de dépenser dans la crise des sommes colossales pour se défendre d'on ne sait quel ennemi. Est-ce que c'est prendre le dossier par le bon bout en posant la question comme ça?
Oui, c'est une très bonne question. Alors, plusieurs éléments de réponse à cette question. Le premier, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas une nouvelle pour vous, mais je vous le redis, la Grèce refera défaut sur sa dette publique dans les mois ou les années qui viennent, pour une raison très simple, c'est que un pays qui est obligé d'emprunter à un taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt moins le taux d'inflation, supérieur à son taux de croissance, voit sa dette augmenter mécaniquement, puisqu'en fait, la montagne de sa dette augmente plus vite que la taille du gâteau du pays. Alors, sauf à ce qu'il ait des excédents budgétaires extraordinaires, ce qui n'est sur l'agenda d'aucun pays de la zone euro, même de l'Allemagne. Donc, la dette publique grecque continuera d'augmenter. On peut continuer d'assassiner la société grecque comme nous le faisons aujourd'hui. Ça ne sert strictement à rien pour limiter la croissance de la dette publique grecque. Alors, je disais ça pendant la campagne présidentielle dans un état-major d'un parti politique, dont je ne donnerai pas le nom. Et on m'a répondu, mais peut-être quand même si on euthanasiait tous les fonctionnaires grecs, est-ce qu'au moins ça marcherait ? Réponse, non. Vous pouvez euthanasier tous les fonctionnaires grecs. Si les taux d'intérêt auxquels la Grèce emprunte sont supérieurs à son taux de croissance, la dette continuera d'augmenter.
On est à moins 6% pour
la Grèce. On est à moins 6% en 2012, on était à moins 7% en 2011. Donc le PIB grec est en chute libre. Donc il faudrait en fait payer la Grèce pour lui prêter de l'argent, en fait, ce que l'on fait pour nous en France aujourd'hui, pour espérer peut-être un jour réussir à stopper la croissance de la dette publique grecque. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors après vous en venez à la question, est-ce que du coup on ne pourrait pas aménager un deuxième défaut grec, puisqu'on est conscient du fait que la Grèce ne pourra pas rembourser et qu'il ne sert à rien de continuer à détruire l'économie grecque, à privatiser toute la société grecque. Bon. Alors, du coup, ça nous renvoie aux causes de l'endettement grec. Alors, ces causes sont multiples. Une partie de la dette publique grecque aujourd'hui est de la dette qui est encore héritée de l'époque des colonels, dont le peuple grec aujourd'hui ne peut pas être complètement rendu responsable, me semble-t-il. Une autre partie, très significative, date de l'entrée de la zone euro, l'entrée de la Grèce dans la zone euro en 2001. Alors, comme vous le dites à juste titre, comme je le rappelle dans le bouquin, en 2001, au moment où la Grèce entre dans la zone euro, elle falsifie ses comptes publics avec l'aide d'une banque, Goldman Sachs, qui lui permet d'appliquer les mêmes astuces qui avaient permis à JP Morgan, en 1996, de falsifier les comptes publics italiens. Donc, c'est une astuce classique, connue de toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions-là, et que d'ailleurs, Eurostat, qui est l'équivalent européen de l'INSEE, à Luxembourg, qu'Eurostat a dénoncé en 2001, en disant « il ne faut quand même pas nous prendre que pour des idiots, on voit bien que vous avez falsifié les comptes publics, donc vous ne vérifiez pas les critères de Maastricht, en réalité vous ne devriez pas entrer dans la zone euro ». Sauf que le Conseil européen et la Commission européenne ont fermé les yeux, en sachant très bien que les comptes étaient faux. Alors, j'ai interrogé un ancien commissaire européen qui était à la Commission en 2001, un chrétien de grande valeur, bon, Cato, qui m'a dit « Gaël, je te promets que je ne savais pas ». Voilà. Alors certainement, il y avait des commissaires qui ne savaient pas, et puis je ne peux pas imaginer qu'il n'y en ait aucun qui l'ait su, ou alors c'est qu'il y a des dysfonctionnements terribles entre Eurostat et la Commission européenne, mais je crois plutôt qu'on a fermé les yeux. La Grèce est le seul pays dont nous, la France, nous avons soutenu l'entrée dans la zone euro.
Pour quelle raison, selon vous ?
C'est une bonne question qu'il faudrait poser aux politiques qui étaient au pouvoir en 2001.
Vous avez une hypothèse ?
Alors j'ai une hypothèse sur laquelle je vais revenir. Donc, en 2001, la Grèce entre dans la zone euro. À ce moment-là, techniquement, un pays qui entre dans la zone euro est moins sûr qu'un pays qui est hors de la zone euro. Pourquoi ? Parce qu'entrer dans la zone euro, ça veut dire que ce pays n'a plus le pouvoir de création monétaire, puisque la seule institution dans la zone euro qui a le pouvoir de création monétaire, c'est la BCE. Donc aujourd'hui, ce qui embête bien la Grèce, c'est que précisément, elle ne peut pas imprimer des euros pour acheter du pétrole, payer ses fonctionnaires et payer la voirie municipale. Elle est obligée de nous les emprunter à nous, via le FESF. Donc un pays qui rentre dans la zone euro perd le pouvoir de création monétaire et perd un instrument de politique essentiel qui est le pouvoir de dévaluer sa monnaie, puisque ça rime à une monnaie qui n'est pas la sienne, c'est l'euro. Donc en bonne logique, les investisseurs auraient dû prêter plus cher à la Grèce après 2001 qu'avant. Simplement, tout le monde a fait le pari qu'entrer dans la zone euro, c'était entrer dans un cercle vertueux qui permettrait à la Grèce tout d'un coup de connaître un miracle grec. Alors ça, c'est la réponse qui m'a été faite par mes camarades qui continuent de travailler sur les marchés financiers quand je leur ai demandé « Mais pourquoi les banques ont-elles prêté autant d'argent à la Grèce entre 2001 et 2007 ?» Réponse « Et d'une, nous avons cru au miracle grec. » Ce à quoi j'ai répondu « Il faut bien croire au miracle, mais pas à cela. » Deuxième réponse « Nous savons bien que tôt ou tard, le contribuable européen paiera à la place des Grecs. » Et c'est, je pense, exactement ce qui risque de se passer si nous ne nous réveillons pas par rapport à cette question. Alors, qu'est-ce qui a été fait de tout l'argent qui a été prêté à la Grèce ? Et de fait, les sommes qui ont été prêtées à la Grèce entre 2001 et 2007 sont colossales. Alors, une partie de cet argent, comme vous le savez, a été utilisée pour les Jeux Olympiques, par exemple. Une autre partie de cet argent a été utilisée pour acheter des produits, des armes, par exemple, à la France et à l'Allemagne. Et ce trafic-là a continué même après 2010. Même après qu'il est devenu clair que la Grèce ne pourrait pas rembourser ses dettes, que le taux d'intérêt grec a explosé sur les marchés financiers, la France a continué de vendre des armes à la Grèce avec de l'argent que nous étions en train de prêter à la Grèce. Oui. Donc ceci a été dénoncé au Parlement européen. Voilà. Alors, Du coup, l'hypothèse qu'on peut formuler sur les raisons pour lesquelles la France a soutenu l'entrée de la Grèce dans la zone euro, pour lesquelles la Commission européenne a fermé les yeux, c'est que nous étions très intéressés à l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Ça nous faisait un marché supplémentaire, ça nous faisait un pays qui allait pouvoir nous acheter, par exemple, des armes. Vous savez que la Grèce est notre troisième client mondial d'armement pour la France. Et il est bien connu que la Grèce est une superpuissance géopolitique qui a absolument besoin, vous voyez, de s'armer pour Chypre. Parce que c'est ça l'alibi invoqué, c'est que Chypre, il faut bien défendre Chypre. Voilà. Donc c'est une hypothèse, j'ai absolument aucune preuve, mais voyez, comment se fait-il qu'on ait été aussi laxiste vis-à-vis de la Grèce? Du coup, la question qui, je crois, mérite d'être posée, c'est la responsabilité aujourd'hui du caractère insolvable de la Grèce. À mon avis, elle est portée par tout le monde. Évidemment qu'elle est portée par, disons, la classe politique grecque, qui est, on le sait, très largement corrompue, qui n'a jamais été fichue de construire une administration fiscale en Grèce, ce qui fait que même depuis 2007... Puis 2008, 2010, les impôts ne rentrent toujours pas dans le trésor grec. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'administration fiscale ni de ce nom en Grèce. D'autant que les premiers fonctionnaires sur lesquels on a appliqué des réductions de salaire sont les fonctionnaires du fisc, qui se sont immédiatement mis en grève. Voilà. Donc, mais vous voyez, je crois qu'il faut faire attention. Alors évidemment, les médias nous disent, mais regardez, c'est grec, enfin, c'est pas croyable, ils fraudent l'impôt, ils refusent de payer l'impôt, vu la situation dans laquelle on est. Mais il faut comprendre que vous ne pouvez pas construire une administration fiscale en 3 jours, c'est absolument impossible. Nous avons eu Napoléon. Les Grecs n'ont pas eu Napoléon. Vous voyez, c'est ça qui leur manque. Et la question qui mérite d'être posée, c'est comment se fait-il qu'on ait prêté à ce pays, en sachant très bien, on n'a pas découvert hier matin que la Grèce n'avait pas d'administration fiscale, qu'elle ne pourrait jamais rembourser ses dettes. Parce que l'économie grecque, comme vous le savez, c'est du transport maritime et du tourisme. C'est tout. Il n'y a pas d'industrie digne de ce nom en Grèce. Les olives grecques sont les plus chères d'Europe. Donc les investisseurs qui ont prêté des millions et des milliards à la Grèce, ils le savaient très bien. Les banques qui prêtent cet argent ont des cohortes d'économistes mieux formés que moi pour leur faire l'analyse des pays auxquels ils prêtent de l'argent. Donc ils le savaient très bien. Alors, je termine pour être bref. Pourquoi est-ce que le pari selon lequel il se pourrait que ce soit le contribuable européen qui finisse par payer pour les Grecs, ce pari pourrait bien être gagné? En fait, donc depuis 2 ans, nous imposons des plans d'austérité extrêmement sévères à la Grèce. La Grèce n'a jamais connu une telle récession, moins 7% du PIB l'an dernier, moins 6% cette année, depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez sans doute, 200 000 personnes ont quitté Athènes, parce qu'elles ne peuvent plus vivre à Athènes. Aujourd'hui, à Athènes, vous n'avez plus de médicaments dans les pharmacies, dans les hôpitaux. C'est la situation qu'on trouvait, encore, il y a quelques années encore, dans certaines capitales de pays d'Afrique subsaharienne, mais pas en Europe. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Grèce. Autre petit indice, parmi beaucoup d'autres, le taux de suicide en Grèce a augmenté de 100%. Alors, moi, quand je dis ça à mes collègues économistes, ils me répondent immédiatement, « Ah oui, mais c'était le plus faible d'Europe. » C'est encore une réponse, certes, mais il a quand même augmenté de 100%. C'est un signe que ça va mal dans la société grecque. Bon. Alors, tout ceci pour dire que ces plans d'austérité qu'on a infligés à la Grèce, comme j'ai essayé de le dire, ne servent à rien pour ce qui est de juguler la croissance de la dette publique grecque. Par contre, ils peuvent servir à quelque chose, c'est à gagner du temps. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de répéter. Alors, qui a pu gagner du temps pendant ce temps-là? Alors, essentiellement, les banques européennes du Nord, les nôtres, les Allemandes, les Belges, qui avaient dans leur bilan beaucoup de titres de dette publique grecque. Évidemment, pour ces banques-là, ce n'est pas du tout intéressant que la Grèce fasse un défaut massif, puisqu'elles perdent beaucoup. Qu'ont-elles fait grâce au temps que nous avons gagné? Et à mon avis, c'était judicieux. Elles ont revendu une grande partie, sinon la totalité de cette dette publique, à la Banque Centrale Européenne, qui les a rachetées ou qui les a pris en collatéral, c'est-à-dire en gage d'autres transactions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si la Grèce fait un nouveau défaut, la principale institution, le principal créancier de la Grèce qui perdra beaucoup d'argent, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et plus exactement, l'eurosystème, c'est-à-dire le système de toutes les banques centrales d'Europe, la BCE et les banques centrales nationales, dont la Banque de France. D'après les traités, si ceci arrive, nous sommes, nous, tenus, membres de la zone euro, de recapitaliser la Banque Centrale Européenne. Alors, admettons que la Banque Centrale Européenne perde 50 milliards, à cause du défaut grec, nous, Français, il faudra en gros qu'on s'acquitte d'un cinquième de ces 50 milliards, 10 milliards. Et si c'est plus, ce sera plus. Si on fait ça, alors, de fait, le pari de mes petits camarades financiers aurait été gagné, puisque ce sera bien le contribuable européen qui paiera in fine, pour recapitaliser la BCE, la dette grecque. Vous voyez? Et c'est là que je crois qu'il y a, disons, un vrai débat politique à avoir. Alors, c'est un peu technique. Vous voyez, il faut que je passe 5 minutes à expliquer le problème. Je peux vous assurer qu'à Bercy, au Trésor, actuellement, ils sont très conscients de la difficulté. Et la question qu'ils se posent, c'est comment va-t-on réussir à faire avaler la pilule aux Français, honnêtement. Donc, je crois qu'il faut en être conscient. La question, c'est, à mon avis, il faut absolument refuser de recapitaliser la BCE. La BCE est la seule institution qui a le pouvoir de création monétaire. Donc, il faut dire simplement, eh bien, la BCE se recapitalise elle-même en créant de la monnaie. Sinon, c'est nous qui allons, in fine, payer les dettes de la Grèce.
Gaël Giraud, vous décrivez dans votre livre des mécanismes financiers qui ont à la fois des noms effrayants, titrisation, trenching, CDO, CDS, enfin, vos lecteurs les retrouveront expliqués dans ce livre et qui ont aussi des conséquences effrayantes. On peut supposer, de bonne foi, j'allais dire, ou avec une certaine naïveté, que les choses étaient cachées il y a quelques années. Vous n'êtes pas le seul aujourd'hui à évoquer ces questions-là. Les langues se sont déliées, les critiques sont formulées. Alors, qu'est-ce qui a vraiment changé? Parce qu'on a l'impression en même temps que le système continue de tourner un peu comme avant. Qu'est-ce qu'en 4 ans ou en 5 ans, on a commencé de faire pour essayer de réguler cette fameuse folie financière?
Alors, il y a des décisions qui ont été prises par la Commission européenne qui vont dans le bon sens. Donc, c'est technique de nouveau. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant ici. On en avait parlé à cette même table avec Jean-Pierre Jouyet. Peut-être que certains d'entre vous étaient là l'année dernière. Jean-Pierre Jouyet, à ce moment-là, était le président de l'autorité des marchés financiers. Donc, je crois que ce serait faux de dire que la Commission européenne n'a rien fait, en particulier pour ce qui est de la régulation de ce qu'on appelle les CDS, que vous avez mentionné, hein, les Credit Default Swap, qui sont des actifs dérivés sur la faillite, qui permettent à quelqu'un de gagner de l'argent si un État fait défaut.
De sorte d'assurance qu'on
c'est
prend.
Une sorte d'assurance. Hein. Pour dire les choses très simplement, c'est une assurance comme un contrat d'assurance que vous signez vous-même pour votre maison à deux différences près. La première, c'est que vous n'avez pas le droit de vous assurer sur le risque incendie de votre voisin en droit des assurances. Vous pouvez vous assurer sur le risque incendie d'une maison dont vous êtes propriétaire, pas de celle du voisin. Pourquoi? Parce que si vous êtes assuré sur l'incendie du voisin, vous avez une petite incitation à mettre le feu chez le voisin. Oui. Bon, et puis deuxième différence majeure entre les CDS et les contrats d'assurance classiques, vous n'avez pas le droit de vous assurer plusieurs fois votre maison. Parce que si je peux assurer 50 fois ma maison, ben j'ai intérêt maintenant à mettre le feu dans ma maison. Je vais récupérer 50 fois la valeur de ma maison. C'est intéressant. Alors, avec les CDS, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous assurer 50 fois sur le risque d'un autre. Et c'est exactement ça qui fait que l'impact de Lehman Brothers a été aussi cataclysmique à la fin de l'année 2008, c'est qu'en réalité, toute une série d'intervenants sur les marchés financiers avaient énormément de CDS sur Lehman Brothers. La dette de Lehman Brothers avait été assurée au moins 30 fois, ce qui fait que le 15 septembre 2008, ce n'est pas simplement Lehman Brothers qui a fait faillite, mais il y a 30 Lehman qui ont fait faillite simultanément. C'est ça qui a coûté si cher à la planète finance. À ceci, je réponds tout de suite, c'est une objection très classique. Hein. Les amis financiers répondent « Oui, mais tu vois bien que le marché des CDS s'est très très bien passé en septembre 2008. Tous les contrats ont été honorés, donc ce n'est pas le CDS qui a causé tant de problèmes. » La réponse, c'est évidemment, ce n'est pas vrai. AIG a failli faire faillite et c'est essentiellement à cause des CDS que possédait AIG sur les Lehman Brothers. Il se trouve que l'État américain a mis plus de 80 milliards pour sauver AIG, mais s'il ne l'avait pas fait, c'était bien 80 milliards que ça avait coûté au moins à la planète finance, sans compter les effets dévastateurs qu'aurait eu la faillite de Lehman Brothers. Alors, la Commission européenne a avancé, à mon avis, pas assez, pour une raison simple, c'est que les sujets sont techniques. Donc, les commissaires européens, qui sont des gens sages, réfléchissent avant de prendre des décisions. Pour une autre raison, moins bonne, c'est qu'ils sont l'objet d'un lobbying très très intense de la part des banques. Le grand sujet, à mon avis, sur lequel nous devrions avancer plus vite aujourd'hui et sur lequel il y a un débat énorme, c'est ce qu'on appelle la séparation des banques, dont vous avez sûrement entendu parler. C'est l'idée qu'on puisse édicter une loi qui dise eh bien, il faut séparer juridiquement une banque d'investissement, qui essentiellement agit sur les marchés financiers, d'une banque de dépôt, c'est celle que vous connaissez au coin de votre rue. On a avancé, même si c'est insuffisant, aux États-Unis sur cette question. On a avancé en Grande-Bretagne. On est très en retard en Europe. On n'a absolument rien fait sur cette question. La Commission européenne, il y a une semaine peut-être, vient de dire, au fond, ce ne serait pas une mauvaise idée de penser à la séparation bancaire. Et les banques européennes, les grandes banques européennes, essentiellement Deutsche Bank et chez nous BNP Paribas, sont vent debout contre cette réforme. Là, je crois qu'il y a un vrai débat. Malheureusement, c'est technique, mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui.
Vous avez essayé de nous expliquer, Gaël Giraud, que les politiques d'austérité mises en place ou le plus souvent imposées au peuple étaient inutilement douloureuses, si j'ai bien compris, tout simplement parce que ça ne résout pas le problème de la dette. Au contraire, ça ne fait que la creuser et vous rajoutez, ça crée de la récession, j'allais dire, en asséchant le pouvoir d'achat des gens. Alors, j'imagine qu'on vous a déjà opposé cet exemple allemand qui, lui, a pris, il y a depuis plusieurs années, le chemin difficile de l'austérité et qui semble s'en porter assez bien.
À ceci près que la dette publique allemande est supérieure à la nôtre. Donc, je ne crois pas du tout, si vous voulez, que le schéma, la configuration économique allemande soit un modèle à suivre, en aucune façon. Le secret du miracle allemand, si je puis dire, c'est la déflation salariale. C'est-à-dire des accords qui ont été passés par Gerhard Schröder au début des années 2000 avec l'ensemble des syndicats allemands, au terme desquels, disons, la société allemande s'est engagée à ne pas augmenter les salaires en Allemagne, en échange de quoi les pouvoirs publics allemands se sont engagés à ce qu'il n'y ait jamais d'inflation en Allemagne. C'est ça qui vous explique la phobie anti-inflationniste des Allemands. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos salaires n'augmentent plus, c'est sûr que vous ne pouvez pas tolérer un epsilon d'inflation. Vous voyez ? Ceci fait que l'Allemagne, évidemment, a gagné en compétitivité par rapport à un certain nombre d'autres pays, en particulier par rapport à nous, bon, a des excédents commerciaux tout à fait enviables, ce qui creuse nos propres déficits commerciaux, c'est absolument mécanique. La question, c'est cette déflation salariale peut-elle être généralisée à la totalité de l'Europe ? À mon avis, pas du tout. Absolument pas. Ça supposerait que nous réussissions à jouer au reste du monde le même tour que l'Allemagne nous a joué à nous. C'est-à-dire réussir à accumuler des excédents commerciaux qui creuseront les déficits des autres grâce à une compétitivité retrouvée via la déflation salariale. Il faut rajouter aussi quand même que la réussite allemande est aussi due au fait qu'elle a un bassin, disons, un marché naturel qui est la totalité de l'Europe de l'Est, qui a un besoin immense depuis 10 ans de reconstituer son parc de machines-outils, et qu'évidemment l'Allemagne est là pour ça. Voilà. Donc elle a un marché captif qui lui achète ses machines. Voilà. Nous n'avons pas ça. Donc je ne crois pas du tout qu'on puisse généraliser le modèle allemand, d'autant que, à mon sens, le risque majeur qui guette aujourd'hui la zone euro, c'est bien le risque de la déflation, c'est-à-dire le fait que les prix commencent à baisser et que l'activité ralentisse puis cesse complètement. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les prix baissent en Grèce, alors ça c'est normal vu ce qui leur arrive, mais les prix baissent également à Barcelone, en Catalogne. Alors, je vous laisse faire l'exercice de penser, de vous rappeler quand, dans votre vie, un jour, vous avez vu les prix baisser. Alors, pas simplement le prix d'un produit qui est en solde au supermarché, mais l'ensemble des prix baisser. Et la réponse, c'est jamais. Vous n'avez jamais vu ça dans votre vie. Pour une raison simple, c'est que ça n'est jamais arrivé, sauf pendant les années 30. Parce que quand ça arrive, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde anticipe que demain, les prix vont baisser. Donc les entrepreneurs arrêtent d'investir, ils se disent bah, « j'investirai demain, ça coûtera moins cher ». Les consommateurs arrêtent de consommer, ils se disent « j'achèterai mon appartement demain, ça coûtera moins cher ». Tout le monde s'attend, on attend un jour de plus, les prix baissent, et là tout le monde se dit bah, « j'ai bien eu raison d'attendre, je vais attendre un deuxième jour, un jour supplémentaire ». Et comme ça, d'une certaine manière, on pourrait dire l'ensemble des acteurs économiques, des forces vives de l'économie s'attendent, et plus personne ne produit, on ne travaille plus, enfin voilà. C'est une image, hein, mais le Japon est piégé dans ce scénario déflationniste, dans ce qu'on appelle une trappe à liquidité, depuis le début des années 90. Le Japon a connu une espèce de répétition générale de la crise des subprimes, avec une bulle immobilière très semblable à celle des États-Unis, qui a éclaté en 1990-91. La Banque centrale du Japon n'a pas eu la même réaction que la Fed et la BCE chez nous. C'est-à-dire qu'elle n'a pas inondé immédiatement le secteur bancaire de liquidités pour maintenir les banques à flot. Du coup, le Japon est entré en récession et, depuis le milieu des années 90, la quasi-totalité des acteurs économiques japonais sont persuadés que les prix vont baisser. C'est une manière simple de dire les choses. Et de fait, les prix n'augmentent plus, voire baissent au Japon. Ils recommencent à baisser cette année. Et la croissance est quasi nulle. Le chômage augmente. Voilà, et l'espoir des classes moyennes s'amenuise d'année en année. C'est exactement ce type de scénario-là qui conduit, in fine, des pouvoirs, des partis extrémistes au pouvoir. Hitler est arrivé en 1933, après 3 années de déflation mise en œuvre par le chancelier Brüning en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous êtes rentré dans une trappe à liquidité de cette nature, personne ne sait comment on en sort. Les classes moyennes sont désespérées et cherchent des solutions radicales. Personne ne sait comment on en sort, c'est bien ce qui s'est passé dans les années 30, puisqu'au fond, l'Europe et les États-Unis ne sont sortis de la trappe déflationniste que grâce à la Seconde Guerre mondiale. Pas avant, en réalité. Voilà. Donc je crois que pour nous, ce qu'il faut absolument éviter, c'est que la totalité de la zone euro tombe dans la trappe. La Grèce y est déjà complètement. L'Espagne a un pied dedans. Il faut, à mon avis, à tout prix, mais voilà, c'est ma position, hein, à tout prix éviter que nous sombrions nous aussi dedans. Un certain nombre d'économistes sont venus, du haut de leur grande autorité internationale, prévenir l'Europe. Alors, vous avez eu Paul Krugman, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est prix Nobel d'économie. Bon, ça n'est pas absolument rien. Qui est venu dire en Europe, écoutez, c'est vraiment très dangereux, vous allez tomber dans la trappe à liquidité, arrêtez de faire des plans d'austérité. Il n'a pas été vraiment écouté. Voilà.
Alors, Gaël Giraud, l'austérité, ça ne marche pas, même ça accroît les difficultés. La politique de relance, ça poursuit une croissance condamnée d'avance, vous l'expliquez dans votre livre, parce qu'elle serait basée sur une politique énergétique qui est limitée. Donc on en arrive à ce moment crucial d'une conférence où on dit mais qu'est-ce qu'on fait ? Et vous avez une solution, mais si on la présente comme ça, ça paraît un peu sorti du chapeau. Vous dites qu'il faut mettre en place un plan de transition écologique à l'échelle européenne, je l'ai dit tout à l'heure. Donc peut-être prendre un petit moment pour expliquer cette troisième voie.
Alors, peut-être il faut expliquer d'abord un tout petit peu la contrainte énergétique. Alors, il y a un spécialiste à ma droite là-bas, donc je parle sous son contrôle, c'est Cédric Philibert qui est assis là-bas. Et puis un autre spécialiste au fond, c'est Jean-Charles Ourcade, donc je suis très très contrôlé. Donc si j'ai dit trop de bêtises, vous m'interrompez. Disons, il y a un enjeu qui est l'enjeu énergétique et l'enjeu climatique. Les deux ne se confondent pas. Le plus important, probablement, je pense que mes deux interlocuteurs dans la salle seront d'accord, c'est l'enjeu climatique. Là-dessus, les nouvelles sont très mauvaises. Excusez-moi, hein, j'ai plein de mauvaises nouvelles ce soir, mais je pense qu'il vaut mieux être lucide. Pour, au nom de l'espérance chrétienne, avancer. Mais on avance parce qu'on est lucide. Parce qu'on sait qu'on est dans la nuit. Si on croit qu'on est en plein jour et qu'il fait beau, on n'a plus de raison de se donner du mal pour avancer. Alors, les nouvelles sur le front climatique sont mauvaises. Vous savez que, très vraisemblablement, nous n'arriverons pas à tenir l'objectif des plus 2 degrés Celsius d'augmentation de la température planétaire moyenne depuis l'ère industrielle. Hein, la température planétaire moyenne, c'est 15 degrés Celsius. Elle est en train d'augmenter depuis le début de la révolution industrielle. On sait aujourd'hui, enfin, je crois, avec très très grande certitude, d'un très grand degré de probabilité, que nous allons dépasser à la fin du siècle les plus 2 degrés. Ce qui va déjà provoquer un certain nombre de transformations telluriques dans nos sociétés. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de ne pas dépasser les plus 5 degrés. Parce que plus 5 degrés, alors là, si j'en crois les spécialistes qui sont dans la salle et d'autres, là, c'est une terre qui devient très très difficilement habitable pour une grande partie de l'humanité. Donc déjà à plus 3 degrés, les rendements agricoles s'effondrent, donc on a un problème majeur pour nourrir la planète, et à plus 5, donc là-dessus il y a un vrai enjeu. Ça veut dire limiter de manière massive et tout de suite nos émissions de gaz à effet de serre. Et si j'en crois les spécialistes, il nous reste une petite décennie pour le faire, au niveau planétaire. Évidemment, si chacun attend que l'autre commence, dans 10 ans on continuera de s'attendre, et on aura raté le coche des 10 années qui nous restent. Et nous aurons beaucoup de mal, je pense que notre génération aura à se justifier vis-à-vis de la génération suivante, hein, qui comprendra assez vite que ça va très mal, et qui comprendra que nous avons laissé passer le tournant historique dans lequel nous sommes actuellement. Ça, c'est l'aspect climatique. Et je ne pense pas qu'il y ait, les spécialistes le diront peut-être tout à l'heure, mais je ne pense pas qu'il y ait énormément de débats là-dessus. Hein. Tout ce qui a agité le débat public en France autour de Claude Allègre n'a pas de fondement scientifique. Deuxième aspect du débat, l'aspect énergétique, sur lequel il y a plus de discussions. Alors, vous savez que la thèse du pic du pétrole a été avancée. Qu'est-ce que c'est que le pic du pétrole ? C'est l'idée, non pas qu'il n'y aura plus de pétrole sous le sol terrestre demain matin. Il en reste encore beaucoup, il en reste même beaucoup trop, et nous avons intérêt à ne pas déstocker la totalité de ce pétrole demain matin. L'idée, c'est qu'il ne nous est pas possible, ou en tout cas c'est très difficile, d'augmenter indéfiniment la quantité de pétrole que nous pouvons produire tous les jours sur la planète. Aujourd'hui, on est à 90 millions de barils par jour, juste comme ça, peut-être 87, 88. La question, c'est est-ce qu'on pourra continuer d'augmenter cette production ? Si nous n'y arrivions pas, ça voudrait dire que dans les années qui viennent, il n'y aura plus assez de pétrole pour tout le monde, tous les jours. Pourquoi ? Parce que la consommation mondiale de pétrole continue d'augmenter, elle. Hein, la production mondiale de pétrole serait stoppée, je dis ça au conditionnel, la demande, elle, continue d'augmenter. Donc là, ça veut dire qu'il n'y en aura plus pour tout le monde, tous les jours. Comme il existera toujours des gens prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour faire décoller leurs tanks et leurs avions, ça veut dire que ceux-là seront prêts à payer très cher le baril de pétrole pour en avoir. Et donc, très vraisemblablement, ça veut dire que le prix du pétrole va exploser. Puis, il va s'effondrer aussitôt parce que l'explosion du prix du baril de pétrole plongera, très vraisemblablement, une grande partie de la planète dans la récession. Donc, le prix du baril de pétrole va faire le yo-yo, comme il l'a fait en 2008, pour d'autres raisons. Et nous allons à ce moment-là entrer dans une ère de grande, grande volatilité, incertitude et fragilité sur l'approvisionnement en pétrole pour nous, Européens. Vous savez que le pétrole d'Europe du Nord est de moins en moins productif pour les... Alors, pour une raison dans le détail desquelles je pourrais rentrer tout à l'heure, si vous voulez. Donc, nous avons absolument besoin d'importer massivement du pétrole. Voilà. Donc, ça, c'est la thèse du pic du pétrole. En quoi est-elle discutée? Je le dis tout de suite pour éviter les objections de mes deux camarades qui sont dans la salle. Elle est discutée parce que, comme vous le savez, il y a des techniques non conventionnelles d'extraction de pétrole, dont vous avez entendu parler, les techniques de fractionnement, voilà, de gaz de schiste, enfin, pétrole de schiste, gaz de schiste et fractionnement de la roche. Et la question technique qui est posée, c'est ces techniques non conventionnelles permettront-elles de crever le plafond des 90-100 millions de barils par jour vers lequel nous semblons converger? Il y a un vrai débat là-dessus. Voilà. Quoi qu'il en soit, même ces techniques-là, elles ne feront, et je pense que là, mes deux interlocuteurs muets dans la salle seront d'accord, elles ne feront que repousser à plus tard le pic du pétrole. De toute façon, il y aura un pic du pétrole tôt ou tard. Alors, ces deux contraintes-là font que mon option, mais je ne suis évidemment pas le seul, c'est de dire il serait absolument irresponsable aujourd'hui de se contenter, face au risque déflationniste qui est le nôtre en Europe, de faire une grande relance keynésienne. D'abord, les grandes relances keynésiennes comme telles, ça ne marche pas nécessairement. Le Japon en fait à grands coups de centaines de milliards de yens depuis le milieu des années 90 et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut réussir à convaincre les acteurs économiques que les prix vont quand même monter demain et que ça vaut la peine de se lancer dans une activité économique. Et ensuite, la relance keynésienne classique se heurte à un problème fondamental, majeur, qui est le problème énergétique d'un côté et le problème climatique de l'autre. À l'époque de Keynes, ces questions-là étaient invisibles sur les radars des économistes. Elle devrait l'être davantage aujourd'hui, y compris sur le radar des économistes keynésiens aujourd'hui. Alors, quelle est la solution? C'est une solution. C'est ce que l'on a pris coutume d'appeler la transition écologique. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'amorcer le grand processus de transformation de notre société pour que celle-ci devienne beaucoup moins énergivore, consommatrice d'énergie fossile, et beaucoup moins polluante. Quels sont les grands chantiers de cette transition? Le premier grand chantier, parce que c'est un point majeur de consommation d'énergie fossile, c'est le bâtiment, donc c'est la rénovation thermique du bâtiment, dont vous avez entendu parler, c'est quand même plus ou moins à l'ordre du jour du gouvernement. Deuxième grand chantier, la mobilité, essentiellement remplacer le camion qui transporte les crevettes de Thaïlande depuis le port de Bouc, jusqu'au supermarché qui est à côté d'ici. Alors, peut-être qu'il ne passe pas par port de Bouc, c'est possible, mais au moins jusqu'à un supermarché à Marseille. Parce que ce camion-là, il est très consommateur de pétrole et nous ne savons pas faire, et si j'en crois les camarades ingénieurs spécialisés, nous ne saurons pas faire dans les 10 ans un camion électrique, par exemple, qui roule très vite, qui transporte beaucoup de crevettes et qui consomme peu d'électricité. Donc ça veut dire faire du ferroutage, par exemple, et faire du ferroutage, ça veut dire redévelopper le réseau ferroviaire que nous avons détricoté patiemment depuis la Seconde Guerre mondiale et faire autre chose que du TGV, puisque comme vous le savez, le TGV, c'est 10% des voyageurs transportés par la SNCF. Ça aussi, c'est une transformation énorme. Ça ne se fera pas en 3 jours. Ça suppose un réaménagement du territoire en France. Le troisième grand chantier, c'est la révision de l'ensemble de tous nos processus industriels de production, de manière qu'ils soient moins consommateurs d'énergie fossile et moins polluants.
Ça va ? Très bien. Sur cette question-là, trois petits points à discuter. Vous en convenez, c'est un plan, c'est une sorte de bouleversement de société. Alors, on s'est aperçu dans le débat politique que souvent la question écologique était fortement posée et qui maintenant commence un peu à être prise en compte par l'ensemble de la société. Et ben, quand on est face à une crise, et notamment une crise de l'emploi qui met le chiffre du chômage à des sommets, les politiques et peut-être aussi l'opinion disent on verra plus tard. Donc, première question, l'emploi. Est-ce que c'est compatible avec une politique de l'emploi volontariste? Et puis, la deuxième difficulté, avant d'aborder la troisième, c'est celle de l'argent. On a décrit une situation qui est loin d'être réjouissante. Où est-ce qu'on va trouver les quelques, vous dites, 30 milliards au moins dans une première tranche pour démarrer? On trouve où cet argent?
Alors, première question, la question de l'emploi. Alors, c'est heureux parce que la transition écologique, c'est des millions d'emplois non délocalisables. Parce que les bâtiments qu'il faut rénover, c'est des bâtiments qui sont en France, pas à Pékin. Et le train, c'est le train qui est en France, pas à Shanghai. Alors, la Commission européenne, qui n'a pas beaucoup de sympathie pour ce type de programme, a quand même chiffré à 6 millions d'emplois créés l'amorce de la transition écologique. Ça veut dire au moins 1 million pour la France. Nous sommes actuellement en gros à 3 millions. Ce que les prévisionnistes nous anticipent, c'est au minimum 300 000 chômeurs de plus à l'été 2013, au minimum. Il est assez vraisemblable que si nous ne faisons rien, évidemment, à politique inchangée, nous flottions plutôt vers 500 000 de plus, hein, 3 500 000 à l'été 2013. Donc c'est un vrai enjeu, et par rapport à cette question-là, la transition écologique, c'est une vraie réponse, me semble-t-il. La question beaucoup plus difficile, c'est la question du financement. Pourquoi se pose-t-elle ? Elle se pose en premier lieu parce que le privé, très vraisemblablement, va avoir beaucoup de mal à financer ses travaux pharaoniques. Les sommes qui sont en jeu sont énormes, hein, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année pendant 10 ans, au moins. On peut discuter sur est-ce que c'est 30, 60, 100 milliards, à la limite le fond de la discussion n'est pas là. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Le privé va, à mon avis, mais là c'est un jugement que je porte, hein, va avoir beaucoup de mal à financer ces travaux-là parce qu'ils sont très peu rentables à court terme. Donc tant que les entreprises seront tenues par leurs assemblées d'actionnaires d'avoir des rendements sur actions de 15% par an, comme c'est le cas encore actuellement de la majorité des entreprises du CAC 40 en France, 15% de rendement sur action par an, il est évident qu'elles ne pourront pas investir, qu'elles ne pourront pas investir un copec dans la transition écologique qui ne rapporte certainement pas 15% par an, mais dans le meilleur des cas, je pense au contrôle spécialiste qui est à ma droite, dans le meilleur des cas, quelques pourcentages sur 10 ans. Voilà. Donc les discussions que je peux avoir moi avec des industriels, c'est pas, vous savez, la transition écologique c'est très compliqué, on sait pas faire, et puis au fond, c'est pas notre vocation, c'est la transition écologique, on y croit, c'est très important, et en plus en Europe on sait faire, et on pourrait devenir les leaders mondiaux sur la question, pour ensuite apprendre au reste de la planète à faire sa propre transition. Le grand problème c'est l'argent, on l'a pas. La question se pose même en amont de toute transition écologique pour des rénovations d'infrastructures, de biens publics essentiels pour lesquels un certain nombre de nos grands majors au sein du CAC 40 n'ont plus les liquidités nécessaires pour faire ces rénovations. C'est-à-dire la contrainte financière est telle que les grandes entreprises du CAC 40 n'ont plus les moyens de faire les investissements lourds nécessaires pour que leur travail soit pérenne à 10 ans. Puisque faire des investissements aujourd'hui pour être pérenne à 10 ans, c'est perdre du capital aujourd'hui. Et donc ça, l'exigence de 15% de rendement sur action rend ça extrêmement difficile. Après, la puissance publique. La puissance publique, comme vous le savez, estime qu'elle est très endettée, donc elle ne peut pas financer ça. Donc je ne crois pas qu'il faille attendre de la puissance publique un financement. La réponse qui m'a été faite par Jean-Pierre Jouyé, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, en mai-juin dernier, c'est, mais Gaël, c'est tout simple, c'est la BPI. La BPI va nous faire ça. La BPI, qu'est-ce que c'est ? C'est la Banque publique d'investissement, dont vous avez sûrement entendu parler, au moins dans le dernier discours du président de la République, qui nous a dit « la Banque publique d'investissement sera la banque de la transition ». Donc là, les oreilles d'un certain nombre de personnes se sont dressées. Bon, mais qui donc a écrit ce discours au président de la République ? La question, c'est, autant que je sache, aujourd'hui, j'ai l'impression que la Banque publique d'investissement ne sera pas une banque. Alors pourquoi ne sera-t-elle pas une banque ? Parce que les statuts qui sont concoctés actuellement pour la BPI à Bercy sont tels qu'ils interdisent à cette banque, à la BPI, de se refinancer auprès de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de nos amis fonctionnaires à Bercy estiment que si une banque peut se refinancer auprès de la Banque Centrale Européenne, elle va faire fonctionner la planche à billets de la BCE. Et là, j'ai prononcé le mot tabou par excellence, parce que c'est le péché originel de la planche à billets, comme vous le savez. Tout le monde sait bien que la planche à billets, c'est l'inflation. L'inflation, c'est l'hyperinflation de demain. Et l'hyperinflation, c'est Hitler au pouvoir dans 3 ans. Donc, nos hauts fonctionnaires, mieux formés que moi, plus compétents que moi, se disent il faut être extrêmement raisonnable et surtout empêcher la BPI de faire fonctionner la planche à billets de la BCE. Si vous me donnez une minute pour dire pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec cette option. La première remarque qu'il faut faire, je crois, c'est que la première planche à billets de la planète, ce ne sont pas les banques centrales, ce n'est pas la BCE ni la Fed, ce sont les banques privées. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'une banque vous accorde un crédit, hein, vous allez voir votre banquier pour qu'il vous accorde un crédit pour acheter un appartement. L'argent qu'il vous prête, l'essentiel de l'argent qu'il vous prête, n'existait pas une minute avant que vous n'entriez dans le bureau du banquier. C'est important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de citoyens français qui croient qu'une banque, c'est une institution qui gère des liquidités déjà existantes, éventuellement même des lingots d'or cachés dans le quatrième sous-sol, et qui les prête avec beaucoup de sagesse et de prudence à des emprunteurs triés sur le volet. Alors j'espère qu'ils sont très prudents, mais la question c'est qu'il n'y a pas de lingots d'or et l'argent qui est prêté par un banquier n'existait pas, l'essentiel, 95%. Pourquoi ? Ça, c'est parce que c'est le droit du banquier. C'est pour ça qu'il faut une licence bancaire pour avoir le droit d'exercer comme banquier. Je n'ai pas le droit, moi, demain matin, même si j'en avais envie, de m'improviser banquier. On n'est pas banquier comme on est psychanalyste, vous voyez ? Donc il faut avoir une licence bancaire, parce que cette licence bancaire, c'est...
Il n'y a pas délégation. De psychanalyse dans la
salle. Non, je dis ça en toute amitié et sympathie pour les psychanalystes, s'ils sont à la salle.
Et pour les banquiers également.
Oui, bien sûr. Une licence bancaire, en fait, c'est le roi qui a le privilège de monopole de battre monnaie qui délègue ce droit à une institution privée. C'est ça, la licence bancaire. Donc, les banquiers, ce sont eux qui font marcher la planche à billets. Si faire fonctionner la planche à billets, c'était toujours et ipso facto inflationniste, alors il faudrait pendre haut et court tous nos amis banquiers demain matin. Parce que c'est complètement irresponsable. Ils accordent des crédits alors que ça crée de l'inflation. Vous vous rendez compte ? Alors, je peux vous assurer... expérience vécue, que lorsque vous rappelez ce fait élémentaire hein, qu'on apprend, en première année d'université, dans tous les cycles d'économie de la planète, à savoir qu'une banque crée de la monnaie quand elle donne un crédit, vous rappelez ça à l'un de nos hauts fonctionnaires beaucoup plus compétents que ça, c'est-à-dire il est à des années-lumière au-dessus de la première année d'économie d'université, eh bien il vacille. Ben oui, parce qu'il le sait très bien qu'une banque crée de la monnaie, mais c'est comme les secrets honteux de famille, c'est caché. Et par ailleurs, on continue de répéter que la planche à billets, c'est un crime. C'est le péché originel, c'est voilà. Évidemment, il faut se justifier. Et si on dit juste simplement, mais non, mais ça crée de l'inflation, c'est faux. Puisque dans ce cas-là, il faudrait fermer les banques. Quand est-ce que créer de la monnaie crée de l'inflation ? Si vous créez de la monnaie et que vous jetez cette monnaie par la fenêtre, là, évidemment, ça va créer de l'inflation. C'est ce qui s'est passé au XVIe siècle en Europe. On découvre les mines d'or et d'argent en Amérique. On rapatrie cet or et cet argent. Ça fait une rentrée énorme d'argent, de monnaie en Europe. Mais il n'y a aucune création de valeur économique qui vient en face de cette création monétaire. Donc ça, évidemment, c'est inflationniste. Donc créer de la monnaie que vous jetez par un hélicoptère, ça crée de l'inflation. Créer de la monnaie qui sert à financer des investissements qui créent la valeur économique, ça n'a aucune raison comme telle, ipso facto, d'être inflationniste. L'image très simple, c'est vous avez une masse de billets, c'est la monnaie, qui sert à valoriser, à donner un prix au gâteau, France. Si la masse de billets grandit plus vite que le gâteau France, c'est comme les dettes de tout à l'heure, les prix vont augmenter. A fortiori, si le gâteau France ne bouge pas. La masse de billets augmente, le gâteau ne bouge pas, alors que le prix du gâteau augmente, c'est sûr. Par contre, si la masse de billets augmente et la taille du gâteau augmente aussi, de préférence à la même vitesse, les prix vont rester très stables. C'est bien pour ça qu'un banquier, quand vous allez le voir, il essaye de savoir ce que vous voulez faire avec l'argent que vous allez lui emprunter. Ce n'est pas par curiosité, c'est pas, vous voyez. C'est par prudence, certainement, pour être sûr que vous allez pouvoir rembourser. Mais c'est aussi, en fait, si on prend un point de vue macroéconomique, c'est aussi pour vérifier, au fond, même s'il ne le sait pas, que ce que vous allez faire avec cet argent va bien être créateur de valeur économique et pas simplement alimenter de l'inflation. Vous voyez ? Du coup, la question, la vraie question, c'est financer la transition écologique, est-ce que ça va créer de la valeur économique ? Alors, c'est là, évidemment, que je prends une option, parce que je n'ai aucune preuve matérielle à apporter. Ma réponse est évidemment oui, en tout cas, on peut l'espérer. À condition, bien sûr, qu'on s'organise intelligemment pour piloter cette transition. Si nous réitérons ce que nous avons fait pour le grand emprunt, par exemple, là, ça ne va pas créer beaucoup de valeur économique, puisque l'argent investi va servir à alimenter un certain nombre de réseaux dont la préoccupation première n'est pas forcément de créer la valeur économique. Oui. Donc, évidemment, il y a un problème de gouvernance politique, économique, sur la transition écologique. Mais un commissariat au plan, on a su faire ça jusqu'en 95 en France. Donc nous avons cette culture-là. On est tout à fait capable de le faire. Oui. Enfin, moi, j'y crois en tout cas.
Et si j'ai bien compris, j'espère avoir bien compris en le résumant ainsi, vous plaidez, vous militez pour lever une sorte de tabou intellectuel plus qu'économique qui est celui d'une banque centrale européenne qui jouerait vraiment son rôle en finançant des opérations dont on espère qu'elles vont être rentables et provoquer de la croissance, une croissance raisonnable, une croissance durable. Ça suppose quand même un dernier obstacle, celui de la volonté politique. Et vous savez que vous vous heurtez à ça. Pour le résumer là aussi, vous avez bien souligné que pour lever cet obstacle, il faudrait une plus grande intégration européenne, une confédération certainement européenne. Or, il ne semble pas qu'on en prenne vraiment le chemin. Comment est-ce que vous contournez cet obstacle ?
Alors moi, avec mes petits bras, je ne contourne pas beaucoup. Je reformule ce que vous avez dit, hein, qui est très juste. C'est-à-dire, au fond, ce que la Banque publique d'investissement ferait si c'était une vraie banque, c'est elle accorderait des crédits pour financer, par exemple, la transition écologique. Ces crédits l'obligeraient à se refinancer auprès de la Banque centrale européenne. Elle irait au guichet de Francfort pour se refinancer, comme le font toutes les banques du monde, enfin les banques de la zone euro pour la BCE. Et elle bénéficierait en plus de l'extraordinaire générosité actuelle de M. Draghi, qui prête des milliards aux banques à taux 1% sur 3 ans, c'est-à-dire quasiment rien. Oui. Bon, ça, ce serait le schéma idéal. Évidemment, pour que la BCE y consente, alors, si c'est une banque qui vient toquer au guichet de la BCE n'a pas le droit de lui refuser le refinancement, si la banque est prête à payer le taux d'intérêt qu'exige d'elle la BCE. C'est dans les mandats de la BCE. Donc, a priori, alors, sauf astuce juridique que pour l'instant je n'aperçois pas, mais il y en a peut-être une, hein, une banque publique d'investissement qui accorderait des crédits et qui viendrait à Francfort se refinancer, comme le font toutes les autres banques, ne devrait pas pouvoir se voir refuser le droit d'être refinancée par la BCE. Maintenant, si on passe à l'échelon supérieur et qu'on dit, au fond, la transition écologique, il faut la mener à l'échelle européenne, pas simplement à l'échelle française, et donc il faut dans ce cas-là immédiatement ouvrir le tuyau de la BCE à un grand commissariat au plan européen. Là, évidemment, on passe à l'échelle supplémentaire, enfin à l'échelle supérieure. Et là, ça pose la question de l'indépendance politique de la BCE. Parce que s'il faut que tout le monde passe par l'astuce de la création d'une banque publique pour avoir le droit de se refinancer auprès de la BCE, ça peut devenir compliqué. Autant avoir une structure européenne qui soit en charge du financement et de la coordination de la transition écologique. Voilà. Ça, évidemment, par contre, ça n'entre plus du tout dans le mandat de la BCE. C'est pas du tout dans le mandat de la BCE de financer la transition écologique. Le mandat de la BCE, c'est de contrôler l'inflation, essentiellement. Il est encore plus, comment pourrait-on dire, étroit que le mandat de la Fed aux États-Unis, qui est de contrôler l'inflation, mais aussi de s'assurer qu'il n'y aura pas trop de chômage et un peu de croissance dans le pays. La BCE n'a même pas comme mandat de s'occuper de la croissance, en tout cas pas comme mandat prioritaire. Du coup, ça suppose, à mon avis, une révision du mandat de la BCE et la réinscription de la BCE sous contrôle politique, démocratique. Vous avez peut-être repéré que M. Mario Draghi n'a été élu par personne. Ni vous ni moi n'avons élu M. Draghi. Si on avait procédé à un vote, je ne suis pas sûr que M. Draghi aurait été élu. Surtout que, comme vous le savez, c'est un ancien de Goldman Sachs. Je ne suis pas tout à fait certain que nous avons envie que la Banque Centrale Européenne soit dirigée par un ancien de Goldman Sachs. Oui. Au passage, c'est une petite incise. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, vous en avez entendu parler sûrement, c'est l'union bancaire. Vous avez entendu parler de ça. Hein. L'idée de l'union bancaire, c'est qu'on réalise une grande union européenne qui permette aux banques, celles qui vont bien, de payer une taxe qui permettrait de nourrir un fonds, qui permettrait à son tour de venir au secours des banques qui vont mal. Pour l'instant, je suis tout à fait d'accord. Le point, c'est que cette union bancaire serait placée sous la supervision de qui ? De la BCE, qui aurait le droit, le devoir de superviser la totalité du secteur bancaire européen. Jusqu'à présent, qui est-ce qui s'en chargeait ? C'était les États. Jusqu'à présent, le secteur bancaire français, il est sous le regard de la supervision de la Banque de France et de l'État français. Si vous placez ça sous la supervision de la BCE, c'est la BCE qui va décider de la manière dont on sauve ou on ne sauve pas une banque. C'est plus l'État français, par exemple. Et donc, ça veut dire que c'est une instance qui n'a aucune légitimité démocratique, à mes yeux, parce que personne n'est élu à la BCE, qui va avoir le droit de superviser l'ensemble du secteur bancaire européen. Alors, vous voyez, l'idée initiale est bonne. Le résultat final me semble catastrophique puisqu'on est en train de retirer aux États mêmes le droit de faire les gendarmes vis-à-vis du secteur bancaire dans leur propre pays, puisque seule la BCE pourra le faire.
J'ai peut-être mal formulé ma question tout à l'heure, Gaël Giraud, parce que j'avais bien anticipé que vous ne feriez pas l'intégration européenne à vous tout seul, mais plutôt essayer de nous tracer un peu les signes, s'il en existe, et on l'espère, positifs, qui dessinent malgré tout un mouvement. Et puis, en vous écoutant, je ne sais pas si cette question sera légitime, mais je me suis demandé si cette idée que vous développez, dans le champ politique, elle est souvent développée à gauche, voire à la gauche de la gauche, d'une nouvelle gouvernance économique, d'un rôle plus politique de la BCE, etc. Est-ce que c'est une idée, justement, qui fait peur pour cette raison ? Parce que ces groupes politiques n'ont pas encore soit convaincu l'opinion, soit rassuré les marchés ou leurs partenaires.
Alors, je ne crois pas que ce soit une idée de gauche.
Non, mais je posais
la question. Oui, mais En fait, à mon avis, sur ces questions-là, la ligne de partage en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, ne passe plus entre ce qu'on appelle la gauche et la droite. Mais elle passe entre, disons, aux deux extrémités, aux deux bords d'un parti unique central, centriste, qui réunit l'aile droite du PS, l'aile gauche de l'UMP et le MoDem, et le reste. D'une certaine manière, dans le parti centriste, c'est le grand UMPS, si vous voulez, tout le monde est a priori européiste, tout le monde est pour l'Europe, et tout le monde est pour une Europe très orthodoxe, et donc tout le monde est quand même globalement favorable au traité, au TSCG, au traité pour la stabilité, la coopération et la gouvernance, et tout le monde est favorable à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Et on continue de former le vœu pieux d'avancer vers la fédération, mais je suis un peu sceptique sur la réalité des avancées que nous pratiquons vers la fédération européenne. À l'extérieur de ce parti centriste, vous avez tous les autres, qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est pas un partage droite-gauche. Évidemment, tous les autres, c'est très hétérogène. Évidemment, quand je dis ça implicitement, je suis obligé de me placer du côté de ceux qui sont considérés comme extrémistes, puisque je ne suis pas favorable au traité au TSCG, je suis favorable à la non-indépendance de la Banque Centrale Européenne et au fait qu'on démocratise, donc on replace sous mandat démocratique, le contrôle de la BCE. Mais il faut bien comprendre que dans ceux qui sont à l'extérieur de ce parti centriste, vous avez des souverainistes, dont je ne suis pas, vous avez des internationalistes, dont je ne suis pas non plus. Vous voyez. La question, c'est comment construire une Europe qui fonctionne mieux que celle que nous avons actuellement. Vous voyez. Et... voilà, je crois... Alors honnêtement, enfin, je veux dire, je peux vous dire ça au sens où les discussions que je peux avoir à l'Assemblée nationale sont aussi bien avec des députés de l'UMP qu'avec des députés PS ou MoDem ou Europe Écologie Les Verts. Et la ligne de partage, la ligne de fracture ne passe pas par la couleur politique. Elle passe par, au fond, à mon avis, mais là, évidemment, je porte un jugement, hein, le degré de lucidité de l'homme politique en question. A-t-il compris, par exemple, que la Grèce refera inévitablement défaut dans les deux années à venir? C'est pas clair. Vous avez encore des hommes politiques qui pensent que les dernières mesures adoptées par Draghi suffiront à résoudre le problème des dettes publiques européennes, ce que je ne crois pas du tout. Oui.
Gaël Jour, vous avez un chapitre que vous avez appelé les chantiers prioritaires qui énumère la longue liste des choses qui restent à faire. Réglementation des marchés, séparation des métiers bancaires, mesures contre les conflits d'intérêts, lutte contre les paradis fiscaux, réforme de l'euro, indépendance de la Banque centrale ou démocratisation de la Banque centrale. Enfin, j'en passe parce qu'on pourrait faire encore une liste plus longue. Alors, pour ne pas désespérer de ce chantier titanesque, on commence par où? Où est-ce qu'on a le plus de chances d'aboutir dans les années qui viennent? Puisque vous nous avez dit, en même temps... on a une échéance, c'est 10 ans.
Oui, alors. En même temps, moi, je crois qu'on a déjà commencé. La réglementation des marchés financiers, même si c'est insuffisant, on a commencé. Le bras de fer assez titanesque qui se joue actuellement à la Commission européenne et au Parlement européen. Par exemple, je donne un exemple, hein, pour l'interdiction du trading automatique à haute fréquence. Alors, pour ceux que ça intéresse, la moitié, en gros, des transactions financières en Europe aujourd'hui est réalisée par des logiciels sur les ordinateurs, qui passent des opérations d'achat et de vente au minimum à la milliseconde et pour certains d'entre eux à la microseconde. Pour des raisons que je pourrais développer si ça vous intéresse, nous sommes plusieurs à penser que c'est une très très mauvaise chose parce que ces logiciels sont très difficiles à contrôler, font beaucoup de bêtises, nous font courir des risques insensés et que donc il faut interdire le HFT, le trading automatique à haute fréquence. Les parlementaires européens sont en train de réfléchir aujourd'hui à cette question. Et comment est-ce que vous interdisez le HFT? C'est très simple. Vous dites, à partir de demain matin, il ne vous est plus permis à vous, intervenants opérateurs financiers, d'envoyer un ordre et de le retirer moins d'une demi-seconde après l'avoir envoyé. Rien qu'une demi-seconde. Si vous faites vous demandez une demi-seconde de laps de temps entre deux opérations, vous tuez le HFT, puisque le HFT ne vit que du fait qu'il peut passer des opérations plus vite que le voisin, disons de l'ordre de la milli ou microseconde. Oui. Donc c'est très simple, il faut juste la volonté politique pour le faire. Alors pour ça, il faut convaincre un député européen, qui n'y connaît rien, et c'est normal, que le HFT c'est très dangereux, et puis il faut désamorcer toutes les objections, qui sont extrêmement sophistiquées, élaborées par nos camarades banquiers, qui essaient d'expliquer au contraire aux députés européens qu'il faut absolument du HFT pour alimenter la liquidité sur les marchés financiers. Alors, attendez, juste. Sur la réglementation financière, nous avançons. trop lentement, mais on avance. Le commissaire européen Michel Barnier est très conscient de ce problème, il avance, il fait ce qu'il peut. Voilà. Sur la question écologique, il y a un certain nombre de politiques qui se sont prononcés en faveur de la transition écologique. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens de la mettre en œuvre ? Je l'espère. Je pense que nous allons faire, si nous ne faisons rien, nous allons très certainement faire l'expérience très douloureuse de ce que c'est qu'une récession en France. Jusqu'à présent, nous avons été très épargnés. Nous allons faire cette expérience-là et il faudra bien qu'on trouve des idées pour nous sortir de la trappe à liquidité. Je pense que la transition écologique en est une et qu'elle a une vraie fenêtre politique dans les 2-3 années qui viennent.
On ne peut pas les passer tous en revue, mais les paradis fiscaux. Il y a eu de grandes déclarations politiques d'un précédent président de la République, des engagements forts aussi citoyens de la part d'un certain nombre d'associations, notamment chrétiennes, des grandes campagnes menées. Est-ce qu'on a progressé un peu au moins sur ces questions ?
Alors,
Parce que c'est très contesté là aussi.
Oui, je ne crois pas du tout qu'on ait avancé. Le Vatican a fait des grands efforts de transparence financière, c'est peut-être le seul. En fait, si vous vous souvenez, ce qu'on a demandé, ce que le G20 a demandé, c'est qu'on dresse une liste de paradis fiscaux. Vous vous souvenez de la liste noire, grise et de la liste blanche. Et pour pouvoir sortir de la liste grise, il fallait qu'un paradis fiscal passe des accords de transparence fiscale avec d'autres États. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Les paradis fiscaux ont passé des accords entre eux. Voilà. Ce qui leur a permis de sortir de la liste. Ben évidemment, lorsque les îles Caïmans expliquent aux Bahamas ce qu'elles ont dans leur compte, les Bahamas sont très intéressés. Ce n'est pas exactement à elles qu'il faudrait expliquer ce qui se passe sur les îles Caïmans. Oui. Donc je ne crois pas du tout qu'on ait avancé. Alors j'exagère un petit peu, hein, évidemment. On a avancé en Suisse. Le secret bancaire suisse est quand même fragilisé. Pourquoi est-il fragilisé ? Essentiellement grâce à l'extraordinaire pression qu'exercent les banques américaines sur l'administration américaine pour que l'administration américaine tape du poing sur la table sur l'administration suisse. Pourquoi ? Parce que c'est très intéressant pour les grandes banques américaines d'arriver à couler le secteur bancaire suisse, qui lui fait de l'ombre. Vous savez que dans les 10 plus grosses banques du monde, il y a 2 Suisses, toutes les autres sont américaines, ça les embête bien. Donc la raison pour laquelle les États-Unis font autant de pression sur le secret bancaire suisse, c'est pas simplement uniquement par souci de la justice fiscale, mais c'est aussi parce que ça intéresse beaucoup les banques américaines. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le secret bancaire suisse est très fragilisé. De ce point de vue-là, on a aussi avancé. Voilà. Mais je crois qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire dans cette direction.
Vous m'aviez demandé au début combien j'avais de questions. 100, non, j'en ai pas 100, mais je pourrais en avoir 100, mais je vais en faire formuler une dernière avant de donner la parole aux personnes qui vous ont écouté, j'en suis sûr, avec intérêt. Une dernière que je regroupe. Je l'ai dit tout à l'heure, vous nous invitez à un combat, au sens spirituel du terme, contre l'illusion financière, ce nouveau veau d'or des temps modernes. Mais vous le dites vous-même, nous ne sommes pas tous ni décideurs, ni banquiers, ni économistes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme simple citoyen ? Et puis, deuxième partie de ma question, vous avez sous-titré cet ouvrage « Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire ?» Est-ce qu'il parle assez haut et assez fort sur cette question ?
Alors, est-ce qu'il parle assez haut et assez fort ? En fait, ça n'est jamais assez, c'est sûr, mais on peut dire quand même que le magistère ecclésial a pris des positions très fortes sur ces questions. Comme vous le savez, la Conférence épiscopale de France, depuis l'été 2010, donc le 21 juin 2010, si ma mémoire est bonne, a fait une déclaration sur la question de la réglementation financière en demandant très expressément aux acteurs financiers privés d'être loyaux vis-à-vis de leurs autorités publiques et de collaborer loyalement avec leurs autorités. Je ne suis pas absolument sûr qu'ils le fassent tous, mais en tout cas, les évêques de France les y invitent très très fortement. Depuis lors, il y a eu d'autres déclarations très intéressantes. Une du Conseil pontifical de justice et paix, dirigé par Mgr Turkson à Rome, qui est sortie en décembre de l'an dernier, en décembre 2011, et qui se prononce de manière très précise et très ferme sur un certain nombre de sujets. D'une part, l'imposition d'une taxe Tobin, disons plus simplement d'une taxe sur les transactions financières. D'autre part, la séparation des métiers bancaires. Donc le Conseil pontifical tranche en faveur de la séparation des métiers bancaires. Troisièmement, c'était la recapitalisation des banques sous conditions. C'est-à-dire que en 2008, par exemple, nous en France, nous avons recapitalisé les banques. Quand même, ça ne nous a rien coûté in fine avec tous les bémols que j'ai dit tout à l'heure, mais nous avons mis de l'argent public dans les bilans des banques. Cet argent n'a pas été mis sous la forme d'actions, enfin disons de capital propre des banques, parce que ça aurait autorisé l'État à entrer dans le conseil d'administration des banques. Ce que le gouvernement de 2007-2008 n'a pas voulu faire. Donc c'était de la dette très subordonnée, que les banques ont pu utiliser comme des quasi-fonds propres, sans que l'État ait son mot à dire sur l'usage qui était fait de cet argent dans les banques. Alors le Conseil pontifical de justice et paix dit ce genre de pratique, non. À partir du moment où on prête de l'argent public à une banque, l'État a un droit de regard sur ce que la banque fait de cet argent. Et puis, le quatrième volet que développe le Conseil pontifical de justice et paix, c'est la gouvernance monétaire internationale, voilà, qui est un grand thème, disons, voilà, on pourrait dire eschatologique. Hein, c'est quand arriverons-nous à avoir une devise, une monnaie universelle émise par, disons, un FMI digne de ce nom, etc. Voilà. Mais c'est une déclaration très forte, hein, très précise. À ma connaissance, c'est la première fois que le magistère s'exprime de manière aussi ferme et précise sur des sujets techniques de cette nature. Et puis, troisième grande déclaration que je mentionne, c'est celle de la COMECE, hein, la Commission des évêques européens, qui date de janvier dernier, en faveur, alors le titre c'est « Pour une communauté solidaire et responsable en Europe », et les évêques européens se prononcent en faveur d'une accélération de la marche vers une Europe fédérale, se prononcent de nouveau en faveur de la mise en place d'une taxe sur les transactions financières et se prononcent en faveur de, alors je crois que le mot n'y est pas explicitement, mais en faveur de la transition écologique. Sur le volet écologique, la Conférence épiscopale de France a publié cet été un très beau texte sur qui doit s'appeler « Enjeux et défis écologiques », voilà, où les évêques, nos évêques nous disent très clairement « Aujourd'hui, un chrétien ne peut pas décemment se désintéresser de la question énergétique et climatique. » Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que comme chrétien, il croit que le monde lui est donné, que c'est la création du Père qui lui est confiée. Ce que nous apprenons depuis un certain nombre de décennies, c'est que cette création est fragile. Voilà. Alors, moi, comme créature qui reçoit cette création des mains de Dieu, ma tâche, c'est aussi d'en prendre soin. Et, d'une certaine manière, la transition écologique, c'est la déclinaison technique, politique, économique de cette tâche, si vous voulez, magnifique, énorme, qui est d'apprendre à cultiver le très beau jardin qui nous a été confié par Dieu. Vous voyez ? Et puis, alors pour terminer, répondre un peu à votre question, qu'est-ce que peuvent faire les chrétiens ? Alors, ils peuvent lire les textes du magistère, c'est très bien. Ce qu'ils peuvent faire d'autres aussi, c'est s'engager sur un certain nombre de sujets. Alors, vous avez mentionné, il y a eu des campagnes faites par des médias catholiques, des ONG chrétiennes, contre les paradis fiscaux, par exemple. Ça, c'est un enjeu magnifique. Hein. C'est-à-dire, je pense que nos politiques nous bougeront sur la question des paradis fiscaux qu'à partir du moment où l'opinion publique sera suffisamment ferme et forte pour les obliger à bouger. Donc là, c'est à nous aussi de nous mobiliser. C'est à nous de nous mobiliser comme chrétiens, comme citoyens chrétiens, sur la question écologique. Et je crois que c'est à nous de nous mobiliser pour nous défaire de l'hypnose des marchés financiers. Parce qu'il n'y a pas que les pauvres commissaires européens et parlementaires européens qui ont été fascinés par les marchés financiers. Toute notre société est fascinée. Et c'est normal. Vous avez des promotions entières, enfin entières, j'exagère, mais un tiers de la promotion d'une grande école d'ingénieurs française qui part sur les marchés financiers, c'est absolument pas normal. Ça dit bien quelque chose du fait que, quand vous avez 25 ans aujourd'hui en France, vous rêvez un jour de devenir trader. Alors heureusement, depuis quelques années, beaucoup moins, mais au moins jusqu'en 2008, beaucoup d'entre nous. Donc c'est notre société tout entière qui est d'une certaine manière polluée par cette idée que lorsque ça va bien sur les marchés financiers, ça va bien pour tout le monde. Ce dont nous avons fait encore l'expérience il y a 3 semaines, puisque une grande partie des médias français a poussé des cocoricos alléluiatiques en disant « c'est fantastique, les cours de la bourse sont remontés à leur niveau de 2007 ». Alors que c'est une illusion complète. Je le redis, ça veut juste dire que la bulle recommence à gonfler. Ça ne veut absolument pas dire que la santé économique de l'Europe est meilleure. Je le redis aussi, je n'ai pas eu le temps de le dire plus tôt. La question des dettes en Europe est fondamentale, mais ce n'est pas du tout la question des dettes publiques, c'est la question des dettes privées. Le secteur privé en Europe est considérablement plus endetté que le secteur public. En France, hors institutions financières, c'est 110% du PIB, le secteur privé, au moins. En Espagne, c'est 200-250% du PIB espagnol. C'est beaucoup plus considérable. Donc des deux grands acteurs économiques en Europe très endettés, celui qui a besoin de se désendetter le plus rapidement possible, c'est pas la puissance publique, c'est la sphère privée. Vous voyez ? Et ça passe par, disons, une désolidarisation du secteur privé industriel, réel, de la sphère financière. Puisqu'au fond, la sphère financière encourage l'ensemble des acteurs économiques à s'endetter énormément pour pouvoir faire des opérations financières à très fort effet de levier sur les marchés financiers. C'est ça qu'il faut arrêter. Et donc c'est là qu'il faut aussi, enfin j'espère en tout cas, une vraie mobilisation de l'opinion publique qui dise, par exemple, nous ne sommes pas d'accord pour recapitaliser la BCE, donc pour payer les dettes de la Grèce. Nous ne sommes pas d'accord pour que la prochaine banque qui fera faillite soit recapitalisée sans condition. Nous voulons savoir exactement combien d'excès a coûté aux contribuables, etc. Ce genre de choses.
Bien, un merci provisoire, Gaël Giraud, parce que j'espère que ces quelques questions vous ont permis de dérouler de manière un peu cohérente votre pensée et présenter ce livre. Mais je suis sûr que dans la salle, il va peut-être y avoir des questions sur des points particuliers. Je vois déjà au fond des mains qui se lèvent.
Bonsoir. Je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous n'êtes pas favorable au TSCG.
Peut-être qu'on prend plusieurs questions.
Alors ouais. Au fond, encore un monsieur, oui.
Et, c'est Jérôme Vignon. Ce n'est pas tellement une question que l'expression d'un désaccord. Donc la demande de la poursuite d'un dialogue. Gaël Giraud d'ailleurs connaît bien mon désaccord, mais j'ai rarement l'occasion de l'exprimer publiquement. Je suis en difficulté pour souscrire à l'idée que les chrétiens ne peuvent se taire s'il y a aussi des chrétiens qui ne partagent pas ni le diagnostic, ni les solutions qui nous sont proposées. Donc c'est cela qui est la matière. Je vais tâcher d'être rapide. Je trouve que le diagnostic, et en particulier qui fait le procès total du système financier, est exagéré. Que les éléments à charge ont été magnifiés, mais que les éléments à décharge ont été sous-estimés. Par exemple, quand la question a été posée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a tiré des leçons? La seule élément que Gaël a pu donner, et me semble très insuffisant, c'est que la Commission européenne a engagé, mais pas assez, une action sur les CDS. On a entendu par la suite qu'il y avait d'autres choses qui s'étaient faites. Mais au total, ce qui s'est passé depuis 2009 en matière de re-régulation financière, de garantie prudentielle bancaire, de conception d'un système bancaire européen, mis à part le fait que la Banque Centrale Européenne, selon Gaël, devrait être soumise aux autorités politiques, ce que personnellement je ne partage absolument pas, mais je ne vais pas développer, ce ne sont pas des petites choses. Je suis aussi en désaccord avec la financiarisation excessive du point de vue prospectif. On est passé d'une analyse financière sur le passé à une analyse qui n'est plus du tout financière, la transition écologique, qui se déroulant sur une ou deux décennies, et plutôt à faire de changements de comportement, d'investissement, d'évolution des prix relatifs, de modification des modes de vie. Il me semble qu'il y a une rupture de ton très forte et que passer seulement par des investissements productifs ou la planche à billets, enfin, donc par le financier, pour aller vers cette transition, ça sous-estime totalement la nature de cette transition. Les pays les plus en avance sur la transition écologique en Europe n'ont pas du tout d'instruments financiers, mais ils s'appuient sur les entreprises, sur des indications de prix relatifs, sur des stratégies, je pense à l'Allemagne, qui ne sont pas assises d'abord sur des aspects financiers. Et la dernière chose, c'est je ne suis pas d'accord avec la sous-estimation du politique. Autant, je pense qu'effectivement, il est nécessaire d'avoir une vision de long terme, mais au plan européen, penser qu'on pourrait avancer dans les 10 prochaines années en proposant des idées notamment sur la question de l'indépendance de la Banque centrale ou sur le rôle de la question monétaire par rapport à la croissance, qui sont très à l'opposé des cultures d'autres pays avec lesquels, par ailleurs, nous souhaitons davantage coopérer, c'est sous-estimer la difficulté et la nécessité de la coopération politique en Europe.
Je pense oui qu'il y a suffisamment matière à réponse à la question de Monsieur, enfin à l'interpellation de Monsieur Vignon pour ne pas oublier la première question, mais peut-être aller directement à la question de fond.
Attendez, je réponds rapidement sur le TSCG. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire je crois que le risque majeur aujourd'hui, c'est plutôt celui d'une trappe à liquidité déflationniste, ce qui implique que la bonne réponse n'est certainement pas de faire plus d'austérité. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, les dépenses publiques sur le PIB en France n'ont pas augmenté, donc le problème n'est pas d'abord un problème d'excès de dépenses publiques. Je ne pense pas que ce soit l'austérité qui soit la bonne réponse à cette difficulté. Alors, pour répondre à Jérôme, que je remercie beaucoup d'intervenir. Alors, sur le premier point, tout à fait d'accord. Je n'ai pas eu le temps de développer. Par exemple, sur les règles prudentielles, c'est clair que, alors pour donner un tout petit peu d'indication, le comité de Bâle en Suisse est en train de mettre en place, enfin à édicter des nouvelles règles prudentielles, donc des règles qui obligent les banques à être beaucoup plus prudentes dans leurs actions, leurs activités, qu'on appelle des règles de Bâle 3. bon, qui j'espère vont être, donc qui doivent être appliqués à la fin de cette année. Voilà. Donc ça, c'est certainement un très bel acquis. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça ne s'est pas fait sans difficulté et que beaucoup de banques sont très hostiles à Bâle III, estimant que Bâle III va les empêcher d'accorder des crédits et donc va accroître le credit crunch que nous observons aujourd'hui. Ma position, par exemple, sur ce volet un peu technique des règles prudentielles, c'est qu'elles vont dans le bon sens, je ne peux pas évidemment dire le contraire, mais elles ne vont pas assez loin, à mon avis, dans une direction que j'indique ici, c'est le caractère contracyclique des règles prudentielles. Pour dire les choses de manière très simple, en gros, sur les marchés financiers, vous avez un cycle que tout le monde connaît, vous avez une période pendant laquelle le marché financier est euphorique, alors les prix montent, tout le monde s'endette pour acheter, puis il y avait un moment où un certain nombre d'acteurs économiques se disent « mais au fond, je suis trop endetté, je n'arriverai pas du tout à rembourser mes dettes », se mettent à vendre de leurs actifs pour pouvoir se désendetter, et ça provoque la phase descendante du cycle, donc ce qu'on appelle le cycle d'effet de levier. Il me semble qu'un grand principe directeur de la régulation financière, ça devrait être de lisser le cycle d'effet de levier. Dans les règles de Bâle III, vous avez ce qu'on appelle le coussin contracyclique qui fait ça exactement, sauf que, à mon sens, il est trop petit et il est pollué par toute une série d'autres règles, des ratios de liquidité, etc., qui sont à juste titre, à mon avis, très contestées par les banques. Donc, je suis complètement d'accord, j'ai pas dit qu'on n'avait rien fait, hein. C'est vrai que je n'ai mentionné que, j'ai eu que le temps de faire ça, hein, les CDS, alors, qui ont été enfin réglementés. Mais il y a eu d'autres mesures très importantes qui ont été prises, Bâle III, il y a eu également la décision par la Commission européenne de mettre des champs de compensation sur un certain nombre de marchés de gré à gré, et je m'en félicite, je trouve que c'est une très très bonne opération. Le fait que la Commission se soit prononcée il y a une semaine en disant, au fond, la séparation bancaire, c'est une question à laquelle il faut vraiment réfléchir, je m'en félicite aussi, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne... Voilà, alors si j'ai donné l'impression d'avoir dit qu'il ne s'est rien passé, ça n'est pas vrai, c'est sûr, je continue de penser que c'est très insuffisant, au sens où les risques majeurs que nous avions en 2007, je ne crois pas qu'ils aient tellement disparu. Un certain nombre de grosses banques sont encore plus grosses qu'elles ne l'étaient en 2007. Donc le secteur bancaire est encore plus, un marché d'oligopole qu'il ne l'était en 2007. Je m'étonne d'ailleurs qu'on tolère ça sur le marché bancaire, alors qu'on ne le tolère pas dans le marché industriel, au nom de la concurrence. Mais on accepte qu'il y ait des méga-banques énormes qui crée un risque systémique considérable en Europe. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr du tout qu'on ait beaucoup avancé. Voilà. Mais tout à fait d'accord. Alors, le deuxième point, si je me souviens bien, le troisième, c'était la sous-estimation.
Sous-estimation du politique. Le deuxième point, c'était, j'allais dire, la rupture de ton entre l'analyse très critique que vous faites d'une financiarisation excessive et, si j'ai bien compris, mais M. Vignon la reprécisera, une solution qui est, d'un autre niveau.
Je suis tout à fait d'accord avec cette remarque, hein, au sens où c'est clair que... Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis pas un énergéticien, comme il y en a dans la salle, et donc je ne suis pas un spécialiste de la manière dont il faut faire la rénovation thermique du bâtiment. Ce dont je ne peux pas vous parler, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi ici pour le faire. Le lien, à mon avis, étroit et profond qu'il y a entre les deux, c'est que évidemment, on peut contester, hein. C'est que je ne crois pas que le privé soit en mesure en Europe aujourd'hui de financer à la hauteur des enjeux la transition écologique. Je ne pense pas que les prix de marché indiqueront les bons signaux pour le faire. Et du coup, la question que je me pose, c'est qui va pouvoir financer ? Et c'est là qu'intervient mon point de vue, qui est la vraie question aujourd'hui de la transition écologique, me semble-t-il, n'est pas une question technique, puisque si j'en crois des amis industriels, ils disent qu'ils savent le faire. Évidemment, je ne peux pas du tout juger. Mais la vraie question, c'est la question du financement. D'où l'accent que je mets là-dessus. Pour les aspects, disons, il y a évidemment une dimension d'abord sociale fondamentale, hein, qui est que notre société tout entière, par exemple à travers les petits gestes du quotidien, se décide à prendre au sérieux la question écologique. Ça, je suis complètement d'accord. Le point, c'est que je ne pense pas que ça suffise. Et qu'il y a vraiment une politique de l'offre à mener, pas simplement une réduction, disons, de la demande... du côté de la décroissance. Je ne suis pas du tout un apôtre de la décroissance. Mon point, c'est de dire qu'il nous faut une vraie politique de l'offre pour amorcer la transition et je ne vois pas comment la financer autrement que par la planche à billets. Bon. Troisième aspect, l'aspect politique. Je suis très conscient du fait que, en particulier, l'Allemagne ne sera jamais d'accord pour qu'on revienne sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Je pense aussi que les amis de Bercy ne seront jamais d'accord non plus. Ça me paraît très clair. Donc, j'en suis conscient. je continue de dire, voilà, comme économiste, je crois que je ne vois pas tellement d'autres solutions. Je pense que ça mérite d'être discuté. D'autant plus que les raisons pour lesquelles ces interlocuteurs-là ne sont pas d'accord ne me semblent pas les bonnes. Je comprends bien qu'on ait peur de la planche à billets, mais je redis que la planche à billets fonctionne à plein tous les jours. Et que donc, si la planche à billets, c'était le crime, il faudrait vraiment fermer les banques demain matin. Maintenant, évidemment, ce programme-là ne peut pas tenir lieu aujourd'hui de programme politique pour une Union européenne fédérale avec les membres qui la constituent aujourd'hui. Parce que je suis bien conscient du fait que ça n'est certainement pas moi qui arriverai à convaincre nos voisins allemands de revenir sur des positions aussi fermement ancrées chez eux.
Denis Viennot de Justice et Paix. Pour une fois où un laïc peut dire à un clerc qu'il ne fait pas assez d'éthique, j'en profite. Pour une fois où un laïc peut dire à un clerc que le clerc ne fait pas assez d'éthique, j'en profite. Tu as beaucoup traité les questions d'analyse financière, d'analyse politique, mais ça serait quand même bien qu'on y ajoute clairement un regard éthique dans ce fonctionnement du système financier qui est d'une perversité folle. Je veux dire deux choses simplement. On est face à des gens qui ne savent plus ce que c'est que l'abus de droit. Et à partir du moment où les choses sont...
Ce que c'est que le droit, c'est ça ?
L'abus de droit. On est face à des gens qui ne savent plus... Le micro ne marche pas ?
Si, mais on entend mal.
On est face à des gens qui ne savent plus ce que c'est que l'abus de droit.
L'abus de droit, pardon.
Attends, je termine. Tout ce qui est confusion totale entre le légal et le légitime. La question des paradis fiscaux, il faut quand même parler de la corruption, parler du crime, de la prostitution, de la traite, etc. Les paradis fiscaux servent à ça et les banques françaises sont complices. Et puis alors, je cite les bons auteurs, dans Deus Caritas Est, c'est pas moi qui l'ai écrit, le pape cite saint Augustin, c'est pas moi qui l'ai écrit, quand il dit « Un État qui n'est pas gouverné selon la justice », et c'est tout le débat sur en quoi le système financier fabrique ou fabrique pas de la justice, ben cet État, s'il n'est pas gouverné selon la justice, ouvrez les guillemets, c'est une grande bande de vauriens, c'est pas moi qui l'ai dit. Saint Thomas d'Aquin, cité par Benoît XVI.
Vous prenez tout de suite la question avec une toute petite, si vous me permettez, une petite phrase. À cette nouvelle interpellation, je dois dire que c'est peut-être alors mes questions qui ont, parce qu'on avait un temps limité, trop peu reflété la teneur de l'ouvrage qui, précisément, j'ai essayé de le dire en introduction, est tout imprégné de cette volonté de partir d'un discours éthique, précisément. Et ceux qui prendront le soin de le lire retrouveront beaucoup des réponses que vous posez. Mais je vais peut-être laisser Gaël Giraud le développer un peu.
Non, mais je suis... Je pense que l'une des raisons pour lesquelles, c'est vrai, je mets un peu plus l'accent sur les aspects techniques du débat, c'est que nous sommes, nous, chrétiens, dans l'Église, très attendu sur les questions éthiques générales, beaucoup moins sur les questions techniques d'économie, de finance ou politique. Alors, je me rappelle avoir donné une conférence à une association de directeurs financiers et de contrôleurs de gestion où j'ai évoqué des questions de comptabilité d'entreprise qui me semblent problématiques et peut-être même ai-je évoqué la question de l'exception comptable dont jouissent les banques depuis 2008, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, quelqu'un est venu me voir à la fin en me disant « Mais... Père, vous n'avez pas parlé de l'homme. Vous avez parlé de comptabilité, tout ça, mais nous, on vous attendait sur l'homme avec un grand H, vous voyez ? Bon, ce à quoi ma réponse, c'est mais quand on parle de comptabilité, on ne cesse pas de parler de l'homme, vous voyez ? Bon. Alors après, je suis bien d'accord avec vous qu'il faudrait pouvoir ordonner tout ceci avec un certain nombre de critères éthiques le plus simple possible. Alors, j'ai essayé de tracer un petit chemin dans le livre, disons, avec un parcours biblique qui permet de s'orienter dans ces questions-là. Pour dire les choses de manière très simple, il y a, à mon avis, dans ces questions-là, un débat technique, qui est celui que nous avons avec Jérôme, par exemple, Jérôme Vignon. Il y a, par-delà ce débat technique, disons, un engagement éthique qui croit au sens, à la profondeur et à la pertinence de l'engagement politique dans la sphère publique aujourd'hui, qui croit que mon voisin n'est pas d'abord un concurrent ou une menace, mais une promesse de vie heureuse, et qui croit que le lien social que j'ai avec lui, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du don de Dieu, dont j'ai à prendre soin, et que les transactions marchandes n'épuisent pas la totalité de la richesse de ce lien social. Pour prendre un exemple, c'est l'angoisse de Jacob, quand Jacob va retrouver Ésaü. Vous savez que Jacob a un certain nombre de choses à se reprocher. Il s'est dit peut-être que son frère pourrait lui en vouloir. Bon. Et il hésite beaucoup. Il est au Guédiaboc. Que va-t-il faire? Finalement, si vous vous souvenez, il commence par envoyer son troupeau et même une partie de ses servantes. Alors ça, c'est la solution marchande. C'est-à-dire, j'envoie mes biens. Et plutôt que d'avoir à rencontrer l'autre et à parler avec lui, et à entrer dans un dialogue avec lui, je me dis autant faire des transactions, il aura un peu de mon bien, de ma propriété privée, peut-être que ça le calmera. Oui. Et puis, heureusement, dans cette affaire, dans cette histoire, Jacob consent quand même finalement à rencontrer Ésaü, il tombe dans les bras l'un de l'autre, il pleure et il se parle. Alors c'est ça le chemin biblique, c'est renoncer à l'illusion que de donner mon troupeau à l'autre me rendra, me dédouanera de cette promesse magnifique de rencontre de l'autre, celle que fait Jacob avec son frère. Parce que si dans la cité, deux frères ne peuvent plus se parler, alors qui peut se parler dans la cité?
Vous concluez d'ailleurs ce passage, un troupeau ou un portefeuille d'actifs financiers n'ont jamais conduit deux frères à se parler en vérité.
Oui.
Est-ce qu'il y a peut-être encore au moins une ou deux questions, puisqu'il y a deux mains qui... Alors trois.
Mais vous ferez des réponses. Ma question est toute simple. Avez-vous l'intention de rejoindre les économistes atterrés?
Alors, je peux y répondre tout de suite, le temps que le micro circule. La réponse est non. Donc, j'ai eu une discussion avec des économistes atterrés qui m'ont invité à une table ronde l'année dernière et qui ne s'est pas bien passé du tout. Si vous voulez, le lieu de la discussion avec les économistes atterrés...
Expliquer un peu...
Les économistes atterrés, c'est un groupe d'économistes, pour certains d'entre eux universitaires, pour d'autres non, qui se sont constitués, qui ont lancé un manifeste, je pense que c'était il y a un an et demi, qui sont clairement politiquement étiquetés à gauche. Donc ils m'ont invité à une table ronde et ils ne sont pas du tout d'accord avec les positions que je défends sur la création monétaire. Pas pour les mêmes raisons que, disons, le Trésor en France ou nos voisins allemands, pour d'autres raisons, dans le détail desquelles on peut rentrer si vous voulez, mais voilà. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que même la Banque publique d'investissement pourrait créer de la monnaie, et, disons, ils ne croient pas, pour dire les choses autrement, à une politique de l'offre monétaire. Et ils disent, tant qu'il n'y a pas une demande qui s'adresse à une banque, celle-ci ne crée pas de monnaie. Voilà. Vous voyez que dans le point de vue que je propose, d'une certaine manière, je suis en train de dire qu'il faut faire une politique de l'offre monétaire pour que celle-ci génère une politique de l'offre industrielle. Et donc, les atterrés, eux, sont dans une perspective très, très keynésienne de la demande. Il n'y a que la demande qui génère quelque chose dans une économie. Donc, en l'absence de demande, il n'y a pas de monnaie.
Notre micro est là. Pardon.
Cédric Philibert.
Merci. Je voudrais proposer une... défense paradoxale du traité européen. Mais d'abord, je voudrais dire deux mots sur la Banque centrale et Mario Draghi. C'est un ancien de Goldman Sachs, mais c'est pas à toi que j'apprendrai qu'il y a de la place. Il y a de la place dans la maison du Seigneur pour le pécheur repenti. Donc, la question est de savoir s'il conduit bien la Banque centrale européenne. Et moi, je trouve qu'il la conduit plutôt bien. C'est-à-dire qu'il a plutôt appliqué des politiques non conventionnelles et il a une interprétation de son mandat large. Plus large que ce qu'on en retient d'habitude, uniquement la lutte contre l'inflation, mais c'est aussi la sauvegarde de l'euro, la défense de l'euro, et de ce point de vue-là, ça l'amène à faire des politiques de création monétaire, je pense. Donc je ne sais pas s'il faut faire un point de fixation sur la question de l'indépendance ou de la non-indépendance de la BCE. En tout cas, aujourd'hui, ça ne me paraît pas le point crucial et le point qui gêne. Maintenant, le traité, parce que tu as dit il y a une cassure entre dans la classe politique, entre tous ceux, le Marais, qui sont pour le traité, et puis ceux qui sont contre. Alors, ça m'inquiète beaucoup qu'il puisse y avoir une cassure entre toi et moi, par exemple. Et je vois le traité comme ça. D'abord, je trouve qu'il dit pas grand-chose de plus que celui de Maastricht. Il remplace un déficit de 3% faisant fi de la conjoncture par un déficit plus petit de 0,5%, mais... concernant uniquement le déficit structurel, donc ça laisse place à beaucoup de liberté d'interprétation, donc de ce point de vue-là, il ne me paraît pas pire. Mais surtout, je pense qu'il tient compte de la situation en Europe, c'est-à-dire, on sait déjà que vu l'interpénétration des économies, il n'est pas possible de faire une relance économique, budgétaire, de type keynésien dans un pays européen. Il est trop enserré dans les économies de ses voisins. On s'en est aperçu en 81 quand un certain Monroy a essayé et que ça n'a pas vraiment marché. Donc maintenant, en plus, avec l'euro, il n'est pas non plus possible de faire une relance de type par la dévaluation, de type monétaire. Je me demande si, en fait, compte tenu de l'histoire de l'Europe et de la psychologie allemande, la seule façon d'arriver à faire ce que tu dis, ce qu'il faut faire, la transition énergétique par un financement, par création monétaire de la BCE, si le traité n'est pas la seule façon d'y arriver. C'est-à-dire le traité qui dit ce n'est pas au niveau des États de l'Union qu'on peut avoir une politique aventureuse de création monétaire ou de déficit budgétaire pour financer de la relance. Ce n'est possible qu'un plan européen. Mais pour y arriver, il faut évidemment que les budgets des États-nations soient conduits d'une façon telle que il n'y ait pas des pays qui aient l'impression de payer pour les autres. Mais est-ce que ce n'était pas la condition politique et psychologique nécessaire pour arriver à ce que, au fond, Draghi continue et amplifie ces politiques non conventionnelles et qu'on pourrait effectivement, je pense, diriger bien plus clairement vers la transition énergétique, puisqu'au fond, c'est quand même une chose qu'on partage avec l'Allemagne. S'il y a un élément de politique substantiel qu'on partage avec l'Allemagne, c'est bien celui-là. Voilà, merci.
Alors, merci beaucoup d'avoir posé la question. Alors, il y a différents volets. Le premier, c'est Mario Draghi, finalement, ne fait pas si mal, et je suis d'accord. Donc, mon plaidoyer pour l'indépendance pour la dépendance politique de la BCE n'est pas lié à un jugement sur la politique que fait Mario Draghi aujourd'hui. Ce que fait Mario Draghi, il crée des milliards qui permettent de racheter auprès des banques commerciales, sur les marchés secondaires, la dette publique des États en difficulté. Et de fait, comme vous l'avez vu depuis cet été, ça a considérablement détendu les marchés financiers. Donc, ça a été bien reçu et de ce point de vue-là, c'est habile. Donc là-dessus, moi, j'ai rien à dire. Ça, en fait, Mario Draghi fait ce qu'il peut avec le mandat qui lui est donné et les instruments dont il dispose. Tout ce que je dis là-dessus, c'est que ça ne résout pas le problème des dettes publiques, à mon avis. Ça nous permet de gagner du temps. Ce n'est pas ça qui va permettre à la Grèce de récupérer le décalage de compétitivité qu'elle a avec l'Allemagne. Je n'y crois pas une seconde. Ça nous permet certainement, je veux dire, dans le calendrier politique qui est aujourd'hui en Europe, de gagner du temps jusqu'en septembre 2013. On a des élections en Allemagne et c'est utile. C'est heureux qu'on puisse, j'espère en tout cas, aborder ces élections en Allemagne en 2013 autrement que dans une situation chaotique provoquée par l'éventuel défaut de la Grèce. Bon. Donc mon point n'est pas du tout de dire Mario Draghi fait mal son boulot et donc c'est pour cette raison qu'il faudrait rendre la BCE dépendante du politique. Il reste que Mario Draghi, à mon sens, continue, mais voilà, ça c'est le même débat que tout à l'heure, hein, ne pas avoir de légitimité démocratique, sauf celle qui lui a été déléguée. Voilà, mais... Alors, après, tu dis finalement le TSCG, est-ce que c'est pas la meilleure manière d'arriver à ce que nous voulons, à ce que nous recherchons? C'est possible. Peut-être que je fais une erreur, disons, de stratégie politicienne. Sur le TSCG, juste avant d'essayer de répondre à cet aspect de ton intervention, sur le TSCG, si le TSCG ne disait rien par rapport à Maastricht, dans ce cas-là, pourquoi faudrait-il un TSCG? Pourquoi faudrait-il quasiment changer la Constitution française? Je m'interroge. D'autre part, là-dedans, il y a la question que tu as mentionnée du déficit conjoncturel et structurel. La question que je pose, c'est qui est en charge de déterminer la part du déficit qui est conjoncturel et structurel? En fait, si cette mesure-là était non discutée, j'aurais rien à dire. Il se trouve qu'elle est éminemment discutée. Par exemple, l'Europe, très charitablement, a calculé d'après elle la part du déficit américain qui est conjoncturel et la part qui est structurelle. Et on arrive à des résultats très très différents de ceux qu'obtient l'administration américaine, évidemment. Donc là, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire qui va être en charge de déterminer la part au fond non acceptable du déficit Alors, troisième aspect, est-ce que le TSCG, finalement, ce n'est pas une voie, disons, une espèce de ruse pour arriver à ce que nous voulons? C'est possible, peut-être que je me trompe de ce point de vue-là. Mon point, c'était de dire, face à la situation macroéconomique européenne aujourd'hui, l'austérité n'est pas la solution. Voilà. Si le TSCG, c'est l'inscription dans la loi de la nécessité de l'austérité, de telle sorte qu'un pays qui ne la mettrait pas en œuvre pourrait subir des sanctions financières de manière automatique, sans que le pouvoir politique français puisse dire, de manière d'ailleurs que le pouvoir politique français puisse dire, mais écoutez, j'y peux rien, c'est pas moi, hein, c'est Bruxelles. C'est une manière très très facile de ne pas avoir à assumer l'austérité. J'enregistre aussi que le TSCG autorise un État à dénoncer son petit camarade s'il estime que son petit camarade ne va pas assez loin de l'austérité pour honorer les critères du TSCG. Voilà. Si c'est pour faire de l'austérité, voilà, je pense que c'est une mauvaise idée. Si c'est une ruse pour arriver à quelque chose de très différent qui serait la transition écologique, je suis évidemment pour. Mais je m'interroge.
Une dernière question. Je pense qu'on a encore ce temps.
Alain Vivet, simple citoyen, non économiste. Je ne suis pas économiste, mais j'ai lu avec beaucoup d'attention les ouvrages de Christian Saint-Étienne, qui me paraissent très intéressants et qui, contrairement à vous, ne pointent pas tellement les reproches sur le système bancaire, mais plutôt sur l'idée de la création d'une monnaie commune pour 17 pays qui ne marchent pas au même pas. En d'autres termes, il dit que la monnaie commune a un grand défaut, c'est qu'elle considère que tous les États vont automatiquement arriver au même niveau de productivité et de compétitivité, ce qui n'est pas vrai. Les Grecs ne seront jamais des Allemands, etc. Et donc, il y aura toujours entre la productivité grecque et la productivité allemande et la productivité française et les autres, des différences. Ces différences étaient autrefois réglées par des dévaluations d'une monnaie à l'autre. Et on doit se rappeler que de 92 à 98, je crois, le système monétaire européen, qui comportait une monnaie de référence qui était l'écu et des monnaies individuelles, rattachait l'écu de manière relativement souple. Ce système a très bien marché et a permis à l'Europe de prospérer relativement sans toutes les difficultés que nous connaissons maintenant. Toutes ces difficultés semblent dues, d'après Christian Saint-Étienne, au fait que les sociétés sont plus ou moins productives, ça tient à leur organisation, à leur mode de fonctionnement, à leur politique, et qu'il est très difficile d'imposer, il sera très difficile à la Commission européenne ou à l'Allemagne d'imposer sa volonté à tous les autres pays. Ça va être assez pénible si l'Allemagne est obligée d'envoyer des inspecteurs pour contrôler les budgets de tous les pays, on se retrouvera dans une situation que nous n'aimons pas. Donc, dit-il, il faut revenir au système monétaire européen, celui qui a précédé l'euro et qui n'a pas empêché l'Europe de prospérer. Et pour ça, il dit que c'est difficile de revenir au système monétaire précédent, mais il n'est pas impossible de créer plusieurs groupes de pays qui se caractériseraient par une certaine homogénéité dans le système social, c'est-à-dire même niveau de protection sociale, dans le système fiscal, c'est-à-dire même niveau d'imposition pour les sociétés, et qui permettrait à chaque noyau, d'une manière plus démocratique, de décider des dévaluations qui doivent procéder par rapport aux autres noyaux.
Peut-être alors, votre question, monsieur.
Voilà. Alors, non, ma question, c'est qu'en pensez-vous ?
Alors, juste une précision, Gaël Giraud. Christian Saint-Étienne faisait partie, donc était un conseiller auprès du Premier ministre et a démissionné il y a quelques semaines ou peut-être quelques mois maintenant de ce poste par désaccord avec la politique conduite par le nouveau gouvernement.
Alors, je réponds juste sur la question que vous venez de poser autour du système monétaire européen. Je ne suis pas un lecteur assidu, malheureusement, j'ai tort sans doute de Christian de Saint-Étienne. Ce que je comprends, c'est la proposition d'en arriver à quelque chose qui ressemblerait, par exemple, à un euro comme monnaie commune. L'euro monnaie commune, c'est vous gardez l'euro pour toutes les transactions hors de la zone euro et vous revenez à l'intérieur de la zone euro à des devises nationales, simplement pour les transactions intra-zone. Donc ça veut dire que pour nous, lorsque nous faisons des transactions avec les Allemands, il y a un taux de change marque franc qui est négocié politiquement, qui n'est pas livré au marché financier. Et puis, lorsque nous faisons les transactions avec les États-Unis, là, c'est le taux de change franc-euro. L'euro, lui, étant évalué sur les marchés d'échange internationaux. C'est une proposition dont Jérôme m'a dit qu'elle avait été discutée dans les années 90, Jérôme Vignon. Voilà. Moi, je pense que c'est une proposition intéressante. Peut-être Jérôme peut dire...
Vous la reprenez à votre compte.
Je la reprends à mon compte.
Alors,
il faudrait replacer cette question-là dans, disons, la totalité du processus de construction d'une Europe politique. Pourquoi ? Parce que même cette solution-là, dont on pourrait croire, par exemple, vous voyez, quelqu'un comme Jacques Sapir a défendu au moins l'euro-monnaie commune, mais indépendamment de toute construction européenne, pour Sapir, c'est plutôt une marche vers la dissolution de la zone euro. Bon, ce n'est pas du tout mon propos à moi. Ce qu'il faut ajouter, c'est que même la construction d'une zone euro avec un euro-monnaie commune suppose qu'un État qui veut s'endetter émette. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va émettre des obligations qui vont être souscrites à l'intérieur de la zone euro. Donc là, avec des devises nationales. Mais ça ne suffira probablement pas. Donc, il va émettre des obligations publiques sur les marchés internationaux hors zone euro en euros. Et donc ça suppose qu'il y ait quelque chose comme des euro-obligations. Pour qu'il y ait des euro-obligations, il faut bien qu'il y ait une fédération européenne qui décide de combien va-t-on lever, comment va-t-on distribuer l'argent levé sur les marchés internationaux. Donc ça suppose d'avancer dans la fédération européenne. Vous voyez ?
Je pense qu'on va s'arrêter là, Gaël Giraud, parce que je suis sûr qu'il y aurait certainement beaucoup d'autres questions, mais on va vous remercier parce que je pense que... Parce que certains qui ont donc acheté votre ouvrage, moi j'ai que les épreuves corrigées, mais j'ai le vrai, j'allais dire, au journal, auront peut-être à cœur de vous rencontrer, d'avoir une dédicace. Je voudrais également signaler, puisque vous me l'avez demandé, que nos confrères de la revue Panorama consacrent un long entretien avec Cécile Renoir, que j'ai cité tout à l'heure et qui a co-dirigé avec vous au moins deux des ouvrages que j'ai cités, 20 propositions pour réguler le capitalisme et le facteur 12, avec fierté aussi, vous présentez Pèlerin, où on a fait ce portrait de Gaël Giraud et mis quelques-uns des extraits qui rassureront Denis Viennot. On parle bien de morale et d'éthique dans cet ouvrage. Et puis, je ne l'ai pas, mais je sais que nos amis de la revue Projet, auxquels vous collaborez, sont également à l'accueil pour présenter la nouvelle mouture de cette revue, éditée par le CERAS. Et enfin, on m'a demandé, et je le fais très volontiers, pour ceux qui voudraient continuer d'entendre Gaël Giraud, mais cette fois-ci dans un cours dont le thème est « Quel avenir économique pour l'Europe ?», ils pourront le retrouver tous les mardis, ici même, de 19h30 à 21h30, du 6 novembre au 8 janvier. C'est un cycle de cours avec deux interruptions, le 27 novembre et 18 novembre. Ces petits papiers sont aussi à récupérer sur les tables des éditions de l'atelier qui vous ont proposé cette soirée. Merci encore, Gaël Giraud, puis j'espère à très bientôt.